Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Vous écoutez l'épisode que nous enregistrons le mercredi 20 mars 2019. Tech Café, c'est une émission hebdomadaire où on vous fait un résumé de l'actualité tech et où on vous y apporte notre regard, notre avis et nos critiques. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode que je vais passer dans la très agréable compagnie de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Moi ça va très bien, merci. Et toi-même ?
Écoute, ça va très très bien.
Content de te revoir.
Oui, alors grand plaisir de se réentendre en tout cas, mais très grand plaisir aussi de retrouver le podcast. Tu sais, c'est là où je me rends compte que je suis très pris en ce moment. C'est que bon, déjà, podcast après podcast, j'écoute beaucoup de choses à la base, hein, beaucoup de podcasts divers et variés. J'ai plus le temps d'en écouter aucun, c'est terrible, même ceux des copains. Donc, c'est pas que je me désabonne, mais petit à petit, je supprime les épisodes parce que je vois bien que je rattraperai jamais mon retard. Mais là où c'est terrible, c'est que je n'arrive même plus à suivre le flux de publication de Tech Café, Guillaume. Donc j'ai écouté l'épisode que vous avez fait ensemble la semaine dernière, qui m'a permis du coup de me tenir à jour de l'actu tech parce que j'avais pas le temps de faire ma veille comme d'habitude. Je me suis mis un peu dans la peau d'un poditeur et du coup je trouve que ça marche pas mal. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps ou l'envie d'écrémer tous les sites web d'actu tech, on a un bon résumé avec des avis critiques, donc je trouve ça très très chouette. Et par contre, j'en suis à la moitié de l'épisode sur la domotique qui a été enregistré par Antoine et Gaëtan, qui est dispo dans le flux de Tech Café pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, où ils ont interviewé Julien qui tient le blog Ça sert à quoi. Évidemment, ils ont parlé de domotique en long, en large et en travers sous le prisme des usages de Julien. Est-ce que, tiens, petit piège Guillaume Poggiaspala, est-ce que tu as écouté les épisodes de Tech Café domotique et est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse?
Eh ben, pas tant que ça.
pas tant que ça écouté ou pas tant que ça intéressé?
Non, mais moi, je suis complètement transparent. Hein. La domotique, c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça. Je suis pas hostile, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas particulièrement, quoi.
Ouais, c'est pour des raisons philosophiques ou pratiques, parce que il y a deux façons de refuser, c'est un grand terme, le prends pas au pied de la lettre, hein, mais de ne pas s'intéresser à la domotique plutôt. Il y a la raison je comprends pas, ça m'intéresse pas, je vois pas la plus-value, et il y a l'autre raison, et d'ailleurs c'est pas forcément exclusif, les deux peuvent être complémentaires, mais il y a la raison presque philosophique qui est de se dire, mais moi je ne veux pas que la technologie rentre dans mon quotidien au point que ça remplace mes serrures, mes volets, les lumières. C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Non, je suis pas hostile. Je disais donc, moi j'ai des ampoules connectées par exemple. Hein, j'ai des Philips Hue, j'ai un petit capteur. J'ai un petit capteur de présence dans la cuisine qui fait pas exactement ce que je veux. D'ailleurs, ça m'énerve, mais bon, passons.
Et c'est parce que t'as pas écouté ta café domotique.
Sans doute. Sans doute, effectivement. Mais disons que j'ai pas. Alors c'est vrai que je suis locataire et que donc je peux pas faire non plus ce que je veux dans l'appartement. Donc ça limite aussi pas mal ce que je peux faire en domotique. Bien sûr. C'est une des raisons pour lesquelles je suis pas plus passionné que ça par le sujet, c'est que de toute façon je peux pas faire grand chose.
Ouais, je comprends.
Et en plus, bon, ça me manque pas plus que ça. C'est-à-dire, tu vois, j'ai des volets roulants, je tourne la manivelle. Bon, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir.
Oh, l'autre, il tourne les manivelles à la main.
Des moteurs et tout ça, je comprends, tu vois. Mais bon, de toute façon, je peux pas le faire. Et puis, bon, ça va, je survis, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un petit peu tout ça.
Je pense que le côté locataire est probablement un truc. D'ailleurs, ça me donne une idée de Tech Café domotique, c'est-à-dire qu'on devrait faire un épisode qu'est-ce qu'on peut domotiser en locataire, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire malgré tout. Mais je comprends tout à fait le côté j'en vois pas forcément la plus-value, contrairement à des trucs comme le smartphone. Aujourd'hui, le smartphone tel qu'il est arrivé, tel qu'il est installé dans nos usages, on est quand même un petit peu une exception quand on n'utilise pas un smartphone. Je sais qu'il y a des personnes qui nous soutiennent très ardemment, qui sont revenus à des dumbphones, et c'est tout à fait compréhensible, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très installé dans nos quotidiens, ce qui n'est pas encore le cas de la domotique. Cessons de parler du podcast. On va quand même rappeler les essentiels pour dire qu'il faut que vous puissiez réagir à l'émission et que ça, le meilleur canal pour faire ça, c'est dans les commentaires de techcafé.fr, le site internet. Vous saisissez techcafé.fr dans votre navigateur et vous allez sur le site web où il y a tous les épisodes de référencés. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur un espace Telegram. Donc c'est un groupe sur une application un petit peu équivalente à WhatsApp, qui n'appartient pas, elle, à Facebook, et où vous pouvez discuter un petit peu de tout et de n'importe quoi, mais quand même, il faut que ce soit relié à la tech, et puis surtout, vous pouvez discuter avec nous. Et enfin, sachez que Tech Café, si c'est un podcast intégralement gratuit, est soumis à la participation de personnes qui voudraient justement soutenir le podcast quand il y a les épisodes hebdomadaires d'actu, les Tech Café, tels que cet épisode présent que vous écoutez, et on vous propose de le soutenir avec des montants très très variables, assez libres d'ailleurs, grâce à la plateforme Patreon. Vous allez sur patreon.com/techcafé et vous avez d'une part toutes les infos et surtout le moyen de vous inscrire et de soutenir le podcast. Vous pouvez plafonner vos participations, vous pouvez les suspendre à tout moment. Il y a une liberté totale dans ce que vous pouvez faire pour le podcast. On enchaîne tout de suite et sans autre forme de procès avec une série de news qui vont être orientées de par l'intention éditoriale par des événements terribles qui sont survenus en Nouvelle-Zélande. Alors pour la petite anecdote, en fait moi j'avais vu, j'étais en déplacement la semaine dernière quand vous avez fait l'épisode avec Pierre-Olivier Dibman, et justement Pierre-Olivier Dibman ramenait, disait en intro, et vous aviez enregistré l'épisode avant les événements, qu'il était revenu sain et sauf de Nouvelle-Zélande, mais je crois qu'il faisait évidemment beaucoup plus référence au fait que c'était le terrain de tournage des Terres du Milieu. Évidemment, vous n'aviez pas connaissance des événements. Et moi-même, quand j'ai écouté l'épisode et qu'on a découvert les événements, on a senti qu'il y avait une espèce de flou sur la portée, notamment le nombre de victimes qui n'était pas bien établi. On sentait que c'était quelque chose de lourd. Et d'ailleurs, je me suis fendu d'un tweet sur le compte Twitter Tech Café pour justement remettre un petit peu les choses dans leur contexte. J'aurais pas voulu que on taxe Pierre-Olivier d'évocation plus ou moins légère de cet événement. D'ailleurs, j'ai eu peut-être des mots un peu malheureux parce que j'ai dit j'ai utilisé des termes qui pouvaient donner l'impression que lissais un petit peu l'aspect terrible de cet événement. Quoi qu'il en soit, en tout cas, remettons un petit peu les choses dans leur contexte et ramenons-le sous le prisme de la tech. Il s'agit d'une fusillade qui a lieu à Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande. Et la particularité de cette fusillade, donc quelqu'un qui est rentré dans un lieu de culte et qui a tout simplement buté des gens, hein, fait les a tués, c'est surtout que ça a été diffusé sur Facebook Live, sur Facebook en live, avec une vidéo qui dure, sauf erreur, près de 17 minutes, grosso modo, donc une durée assez longue. Et évidemment, ça a été un vrai coup de tonnerre, d'une part parce que l'événement en soi, c'est un attentat, enfin c'est quelque chose de terrible en soi, mais il y a aussi ce prisme de la diffusion en live sur les réseaux sociaux qui a donné un caractère encore plus particulier à l'événement. Guillaume, peut-être qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément pour bien percevoir la portée de cette diffusion en live de cet événement?
Oui, c'est vrai que si on parle ici dans un podcast tech de ce truc-là, c'est parce que cet attentat-ci représente des spécificités inédites. Alors bien sûr, ça nous ramène, c'est une gravité extrême, ça nous ramène aux attentats de Paris ou à ceux d'Oslo en 2011. Attentats qui partagent d'ailleurs la nature de ce dernier, puisqu'on a affaire à du terrorisme d'extrême droite, motivé par des théories qui sont complotistes et complètement irrationnelles. Et en fait, là, si tu veux, le terroriste a minutieusement préparé et exécuté son action, qui est, et c'est horrible à dire, qui est assimilable à une campagne de communication, en fait. Vous savez tous, hein, qu'il était inscrit sur tous les réseaux sociaux possibles, hein, il a publié un manifeste, des photos, d'innombrables messages. Donc il a streamé en live, hein, le massacre, effectivement, c'est filmé à la GoPro, il avait une caméra sur sa tête, quoi. Et la médiatisation de son action semblait être aussi importante pour lui que l'action elle-même. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est quand même hallucinant. Ce mec était dans sa voiture, il a pris le temps de tout configurer, de tout connecter, et si jamais il y avait eu une panne, imagine qu'il y ait eu une panne de réseau, ou plus de batterie, il serait resté dans sa voiture en fait, il serait pas passé à l'acte, il serait passé à l'acte une fois que tout serait prêt. Tu vois, donc le gars va tuer des dizaines d'innocents, en fait, il a fait une centaine de victimes, puisqu'il y a une cinquantaine de morts et une cinquantaine de blessés, c'est quand même énorme. Et finalement, tout ça, c'est juste un outil de com', tu vois, c'est absolument hallucinant, quoi. Alors, je sais bien que c'est ce que tous les terroristes veulent, l'attention, Mais là, on a un nouveau palier, quoi, pour moi, parce que le web est très présent, donc tu disais dans la discussion autour de ce massacre, hein, et pour deux raisons principales. Donc, d'une part, il y a l'origine, la naissance, la radicalisation de ce malade sur un certain web, qui, malgré un coup de ménage quand même l'année dernière, perdure, hein, et de manière plutôt pépère, voilà, sur des plateformes variées qui, malgré tout, les tolèrent. Et puis, d'autre part, bien sûr, comme tu disais, il y a la puissance des outils offerts par les plateformes de diffusion moderne, hein, qui, c'est une puissance qu'elle-même, en fait, n'arrive pas à maîtriser. Parce que le meurtrier a tout fait pour tirer le meilleur parti des outils modernes, mais ils ont aussi profité des faiblesses de tous les acteurs du web. Parce que la vidéo du massacre, elle a été diffusée en direct, dans son intégralité, elle a été uploadée, réuploadée des millions de fois. C'est Facebook qui a mis une heure à réagir, il a fait la chasse sans répit après ça, mais pendant des heures encore, la vidéo était trouvable sans trop de soucis. Alors c'est sûr, hein, c'est une tâche monstrueuse, puisque dans les 24 heures après l'attaque, Facebook a viré 1,5 million d'exemplaires de la vidéo, et sur YouTube, la vidéo était réuploadée l'équivalent de une fois par seconde. C'est proprement hallucinant, ça pose même question sur les gens qui sont derrière ce genre de trafic, quoi. Ça fait vraiment très peur, quoi.
Personne. Je trouve que c'est pas le truc qui est le plus pointé du doigt, dans la discussion qu'il y a autour de la viralité de cet événement. Comprenons la viralité de diffusion et de volonté de rediffuser le contenu. C'est effectivement la masse de gens qui adhèrent à la démarche de repartager ce contenu avec probablement de manière extrêmement plus que maladroite, enfin c'est des vraies erreurs, une volonté de retranscrire la réalité. Il doit y avoir probablement un pourcentage de vocation, c'est terrible, mais journalistique à la volonté de rediffuser le contenu, mais dans les telles proportions, c'est complètement dingue. Et moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est qu'effectivement la vidéo a pu être autant réuploadée, quoi. Il y a une volonté de diffuser le contenu et une volonté de diffuser ça malgré tout le mal que ça peut faire de diffuser ce contenu, quoi.
Alors, il est possible aussi qu'il y ait eu plein de trucs qui se soient faits de manière automatisée, hein. Mais bon, si tu veux, si c'est automatisé, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de coordonné, de très réfléchi derrière. Et donc, ça participe aussi à ce problème. Et en plus, la difficulté, elle est ajoutée aussi du fait qu'il n'y avait pas que des copies brutes qui sont faciles à bloquer. Il y avait aussi des versions éditées, des versions coupées, des versions altérées qui étaient faites. C'était fait pour contourner les filtres. Et donc, complètement débordé, à court de modérateurs, YouTube a même décidé de laisser faire l'IA pour aller plus vite. Donc d'habitude, l'IA flague le truc, il y a un humain qui regarde par derrière. Bon, là, ils ont fait laisser faire l'IA, quitte à censurer des trucs qui étaient tout à fait acceptables, parce que on verrait plus tard. Sur Reddit, sur 4chan, c'est le même problème, à tel point que le gouvernement néo-zélandais a sollicité les FAI pour leur demander de bloquer les DNS des sites qui proposaient encore la vidéo, malgré eux ou pas.
Les DNS, c'est grosso modo, pour rappeler, hein, toujours pareil, mais l'espèce d'annuaire qui fait qu'on redirige un contenu qu'on peut rechercher sur des machines en particulier. Donc évidemment, quand on tape au niveau des DNS, on va même le blocage avant d'accéder au serveur qui contient le contenu. Donc c'est vraiment le blocage qu'on peut espérer le plus en amont dans le parcours de l'Internet.
Ouais, enfin, non, c'est pas vraiment le blocage le pire, parce que en fait, tu peux aussi charger d'autres annuaires DNS sur ton ordinateur et quand même y accéder. Il y a pire, comme blocage, il y a beaucoup plus efficace que ça. Mais bon, les FAI ne se sont pas fait prier, en fait, hein, et 4chan et LiveLeak, par exemple, sont bloqués. Je sais pas s'ils sont toujours bloqués, en tout cas, ils étaient bloqués tant qu'ils avaient pas fait le ménage. Donc, c'est quand même une mesure extrême, comme tu le dis, hein, c'est une mesure qui est très en amont, même si, effectivement, c'est quand même aisément contournable, si on s'y connaît un petit peu. Mais ça montre bien la panique et l'impréparation du secteur, face à un drame qui, finalement, n'était pas si imprévisible que ça, quelque part. Et c'est à tel point que Benny Thompson, du ministère de l'Intérieur, hein, néo-zélandais, a publié une lettre pour les PDG de Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube pour avoir un débriefing complet de ce qui s'est passé et leur demander explicitement de faire mieux, parce que là, ils se sont chiés, quoi. Mmh. Alors, des scandales comme ça, des défauts de modération monstres, c'est pas la première fois qu'on en voit, mais on n'a pas vraiment l'impression que ça s'améliore énormément, alors pourtant que Google a embauché 10 000 modérateurs supplémentaires en 2017. Et on n'est pas sûr que ça a changé vraiment grand-chose. Je suis sûr que des millions de personnes ont vu la vidéo juste en tapant Nouvelle-Zélande sur la plateforme favorite, quoi. Mmh. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas eu que sur Internet. Et là, on rejoint l'outrance des médias, puisque certains médias traditionnels, hein, se sont encore illustrés, puisque Sky News Australia passait la vidéo à la télé, carrément. À tel point que Sky New Zealand a viré momentanément la chaîne de son bouquet, quoi. C'est assez fou. Bon, Facebook, YouTube, aucun ne semble être en mesure, ne serait-ce que de faire respecter ses propres règles de diffusion. C'est ça le problème. ne savent pas faire respecter leurs propres règles. Et c'est pire encore pour le streaming. Aussi sympa que ce soit d'avoir un direct avec ton YouTuber favori, ben c'est un problème insoluble pour la modération. Aucun algorithme ne peut, à ce jour, hein, en temps réel, scanner le flux et le virer si nécessaire. Quant à mettre un modérateur devant chaque live, évidemment, ben c'est pas possible. Du coup, c'est la question, ce qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important, tu vois ? Avoir des lives, et donc, ben, je sais pas, des suicides en direct, des attentats... Ou alors, bah, je sais pas, renoncer au direct et réfléchir, enfin, je sais pas, je réfléchis tout, hein, mais par exemple, introduire un décalage de quelques minutes ou quelques secondes pour permettre aux algos ou aux humains de passer le contenu en revue. Ce serait plus un live, mais ça permettrait, en l'état actuel des choses, de laisser passer moins de choses, tu vois. Mmh. Tu vois, si quand on postait quelque chose, bah, ça prenait un peu plus de temps, quelques minutes avant de paraître, hein, ben, le temps d'infiltrage, quoi, globalement, au lieu d'être quasi instantané, est-ce que ça serait si grave que ça? Je sais pas, tu vois, c'est une question de priorité aussi. Pour le moment, personne ne semble avoir de solution, quoi.
Non, c'est super compliqué, et la personne qui prétendra détenir la solution sera peut-être un petit peu présomptueuse. En fait, le problème, c'est qu'on a assez vite envie de résumer la question à... d'où vient le problème, grosso modo. Et c'est trop facile, selon moi, de dire que le problème vient des lives Facebook, enfin, c'est trop facile, d'ailleurs, de juger qui qu'on est, d'où vient le problème. Le problème initial, il vient du fait qu'il y a des connards, qu'il y a des tarés, qu'il y a des terroristes, et bah, malheureusement, on pourra sans doute pas grand-chose là-dessus, à part continuer à contribuer à éduquer le plus possible les gens autour de nous. Finalement, ça met quand même en exergue le fait que on a mis à disposition auprès de tout le monde des outils qui, avant... l'ère de l'internet hyperconnecté qu'on connaît aujourd'hui était réservée uniquement à des médias. Et les médias, alors c'est vrai qu'il y avait des médias qui diffusaient tout et n'importe quoi, mais je suis pas certain que même le pire média qu'on connaisse aujourd'hui dans des pays un tant soit peu démocratiques aurait pu diffuser, enfin va savoir, des trucs comme ce qui a été diffusé. C'est vraiment la mise à disposition de la fonctionnalité live par tout le monde. Demain, toi et moi, on peut diffuser un live sur n'importe quoi, et on n'a pas trouvé la solution aujourd'hui pour filtrer ce qui est bien, pas bien. En plus, là, c'est même pas un sujet d'interprétation. On peut même pas dire dans certaines cultures ça peut blesser, dans d'autres ça peut ne pas blesser. Enfin là, il y a un vrai consensus sur le fait que on n'en veut pas de ce contenu.
Et non, pourtant, c'est un contenu qui est interdit. Oui, mais tu vois, c'est un contenu qui est effectivement, comme tu dis, d'office interdit par toutes les plateformes qui l'ont hébergé.
C'est ça, c'est ça.
Mais
c'est
le problème, c'est que elles ne sont pas en mesure, manifestement, de faire régner leurs propres lois.
En tout cas, pas de manière aussi réactive que ne l'est la réactivité de la diffusion.
Exactement. C'est là-dessus aussi qu'est le souci, quoi. Tu vois, oui, il y a des règles de diffusion. Ces contenus sont filtrés parce que voilà, ils sont hors des règles de diffusion. Mais malgré tout, ben, ils sont. C'est ça que je pense que la puissance des plateformes dépasse les moyens des plateformes elles-mêmes un petit peu, tu vois. Alors, tu disais bon, après voilà, de toute façon il faut quand même faire un petit filtrage. Enfin, je veux dire. C'est vrai que voilà, il y a des balades, il y a des terroristes. Bon, on le sait, mais c'est pas, tu vois. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait pour, tu vois, protéger les gens quand même, quoi.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose, et en tout cas, si on fait quelque chose, quels en sont les prix à payer, quoi.
Exactement. Mais disons qu'il y a quand même, il y a le second rôle d'Internet dans cette histoire, je pense, qui est connexe. C'est parce que c'est aussi un problème de modération, en fait, puisque finalement le malade s'est radicalisé sur un certain web. C'était un membre actif de 8chan. Son manifeste contient des dizaines de références à la sous-culture facho en ligne. Il y a un article du Monde, d'ailleurs, qui le résume très bien. Et il fait même référence à PewDiePie, d'ailleurs, qui s'en serait bien passé, je suppose. Bon, je vais pas gaspiller ma salive.
C'est pas le seul, d'ailleurs.
Et le ton de ce podcast a même évoqué le contenu délirant de cette horreur. Mais le fait est que, même après une certaine phase de nettoyage à laquelle on a assisté l'an dernier, bah, il perdure toujours un web ultra toxique et manifestement dangereux. Donc il est toujours là, un pépère, sur des plateformes qui, bah, il faut bien le dire, le laisse faire jusqu'à ce que ça chauffe. Je pense pas que tu le savais, mais moi, en tout cas, je l'ignorais. Hein, mais Reddit avait des sections gore et watch people die.
Je savais pas, c'est incroyable.
Vois, c'est pour avoir, si t'as envie de voir des vrais membres, de vrais gens arrachés, hein, des vraies victimes criblées de vraies balles, bah, c'est des subreddits charmants, quoi. Hein, et la plateforme vient juste de les fermer, suite aux attentats de Christchurch. Parce que bon, avant, il y avait aucun souci. ça pose pas de problème, tu vois. Donc, je sais que c'est ça, bon, ça n'a pas forcément de rapport direct, mais c'est quand même symptomatique d'un certain laxisme pour des contenus qui, objectivement, sont pas acceptables. C'est, donc, on l'a déjà dit, la liberté d'expression, c'est fondamental, hein, et là, mais bon, là, on pense quand même à des appels à la haine, au racisme, au meurtre, au viol, à des choses qui sont de toute façon condamnables pénalement, en France, hein, en tout cas. Donc, je sais bien que rien ne peut jamais être chassé totalement d'Internet, hein, cette vidéo, ben, elle est sans aucun doute toujours trouvable. C'est même des caractéristiques du web, c'est une fonction, c'est pas un bug, hein, et ça me va. J'ai pas du tout envie qu'on balise tout, qu'on contrôle tout, qu'on filtre tout, bien sûr. Mais au-delà d'un underground qui est un peu incontrôlable, qui se restera, qui perdurera toujours, un petit peu comme partout, hein, comme dans la vraie vie, les grandes plateformes portent une grande responsabilité qui les encombre, d'ailleurs, je pense, mais qu'il faut qu'ils assument. Parce que bon, si tu acceptes, si tu tolères un contenu sur ta plateforme, ben, d'une part, tu le rends accessible facilement par tous, partout, et en plus, il est à côté d'un autre ben, qui donc est aussi légitime que lui, donc ça veut dire que ce contenu est aussi légitime qu'un autre. C'est-à-dire que si tu acceptes un contenu, de fait, tu le légitimises. En plus d'en permettre une large diffusion. Et donc, que tu le veuilles ou non, bah, t'as un rôle éditorial, hein, ça complique la vie, hein. Il faut que les plateformes le réalisent et l'assument, c'est crucial, je pense que c'est même vital, en fait. Je dirais que maintenant que c'est parti, moi j'ai peur que Research devienne une source d'inspiration, finalement, tu vois, et ouais. Voilà, ça met le doigt là où ça fait mal, quoi, vraiment. Hein.
Quel serait alors c'est toujours facile et c'est la question qu'il faut pas qu'on se pose, parce que sinon on est toujours piégé, et pourtant je vais essayer de te piéger. Est-ce que la solution pour toi, finalement?
Ben, la solution, c'est déjà de... Alors, il y a les plateformes, elles ont une philosophie qui est de croître au maximum, de garder les gens au maximum, elles ont une philosophie qui est orientée vers la capture de l'attention et l'accroissement du nombre d'utilisateurs avant tout. Ça veut dire aussi que la modération, les choix compliqués, ça fait chier, parce que ça fait perdre du temps, parce que ça fait perdre des abonnés aussi, et on n'a pas envie de le faire, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que c'est contre-productif, quoi. Parce que si tu es une plateforme qui est toxique, ou en tout cas qui a une couche toxique, ben les gens vont finir par aussi trouver que c'est pas si super que ça, et déserter, tu vois. Donc c'est compliqué. Je m'attends pas à ce que les plateformes, personne ne fasse les choses parfaitement et qu'il n'y ait plus jamais aucun contenu pourri sur YouTube ou ailleurs, bien entendu, tu vois. Mais il pourrait être plus clair, plus moins laxiste, quoi. C'est-à-dire, il pourrait virer les trucs, il pourrait faire des choix.
Ce qui m'interpelle là-dedans, finalement, dans ces discussions. Alors attention, c'est un petit détail de, là encore, le terme n'est pas hyper approprié, mais de désaccord. C'est que j'ai l'impression, quand tu décris ça, que tu incrimines uniquement la partie stratégique. Et moi, je suis convaincu de mon côté, peut-être à tort, que ces plateformes, je parle pas forcément d'ailleurs de Facebook, mais vraiment les plateformes en sens large, n'ont pas la vocation et n'ont pas la stratégie de laisser faire ces choses-là. Je suis convaincu que sur les tableaux d'orientation stratégique de ces entreprises, avec les moyens qu'ils ont, avec les réflexions qu'ils ont sur eux-mêmes pour gagner le plus de fric possible, ils ne puissent se dire à un moment donné, la liberté totale sera synonyme de croissance éternellement et nous permettra de grandir. Et ma thèse, à l'inverse, qui est peut-être très discutable, mais c'est plutôt de me dire que, encore une fois, ils ont engendré un monstre. C'est-à-dire que c'est trop tard maintenant pour arriver à trouver des moyens qui soient efficaces, pertinents, sauf à, par exemple, des trucs aussi extrêmes que interdire les lives sur ces plateformes quand tu n'es pas un média. Tu vois, ce qui va vraiment, et ce qui est peut-être pas un mauvais choix, hein, finalement, moi, est-ce que je préfère aujourd'hui avoir la possibilité de diffuser en live tout et n'importe quoi à titre individuel, y compris la dégustation de ma pizza, y compris l'enregistrement de Tech Café, y compris ma séance de sport, ou est-ce que finalement je veux pas, moi, être un peu pénalisé sur le fait que je souhaite pas forcément diffuser ce type de contenu, mais que, à l'inverse, je sais que des trucs aussi horribles n'auront jamais leur place en live. Tu vois, finalement, est-ce qu'il n'y a pas non plus un choix à faire presque philosophique de la part des utilisateurs en amont ? Parce qu'on est tous en train de se battre sur avoir les notifications, avoir la meilleure résolution, avoir le plus d'images possible, avoir la vidéo qui se charge tout de suite, avoir le meilleur son, avoir le live, quoi. Finalement, oui, est-ce que c'est pas nos attentes qu'il faut revoir?
Alors oui et non, parce que je pense tout simplement que tu dis, les plateformes, elles sont pas pour stratégie de laisser des connards s'amuser sur elle. Mais bon, le truc est...
Il y a pas d'argent sur ces connards. Enfin...
Oui, mais en fait, c'est pas ça, si tu veux. C'est une question de priorité, quoi. C'est quoi les priorités? La priorité, c'est avoir le plus de monde possible et les garder captifs le plus longtemps possible. La priorité, c'est pas d'avoir une des, enfin, c'est pas d'avoir une des communautés policées, c'est pas de faire le ménage, c'est pas d'éviter, tu vois. C'est une question de priorité, je pense, tout simplement. C'est-à-dire, c'est vrai, hein, bien entendu. Je veux dire, YouTube fait le ménage, YouTube modère tout ça, mais on a déjà vu ici à plein de reprises que il le faisait. Mais il le faisait pas forcément de la manière, avec autant d'intensité que nécessaire. Il était peut-être pas à la hauteur, tout simplement, du challenge. S'ils sont pas à la hauteur du challenge, comme ils sont quand même très gros et qu'ils ont énormément de pognon, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une question de priorité là-dessus. C'est en ça que je dis qu'il y a probablement un côté stratégique, un versant stratégique, c'est d'inverser les priorités, quoi. C'est-à-dire de safety first, tu vois ce que je veux dire ? Au lieu d'avoir growth first, bon, quelque part. Et bon, effectivement, nous aussi, on est habitué à avoir de l'instantanéité, on est habitué à avoir du live, etc. Et ces plateformes le font parce que justement, c'est attractif, tu vois. Et si elles le faisaient pas, bah, elles seraient moins attractives. Et par le fait qu'elles sont moins attractives, elles gagnent aussi moins de fric. C'est en ça aussi qu'il y a une question de priorité. Moi, bon, évidemment, moi, c'est juste mon opinion, mais je préférerais, en fait, qu'il n'y ait pas de live, par exemple. Mais que, je sais pas, mon gamin ne tombe pas sur un suicide en direct par accident.
C'est clair. Mais même sans souhaiter de live, moi, je préférerais aujourd'hui, je me suis rendu compte, en fait, cet événement m'a permis de me formaliser ça, je préférerais que le live soit réservé à certains, c'est terrible, hein, mais à certains médias. Ce qui est assez antinomique avec les évolutions, etc. Mais finalement, est-ce que c'est parce que on peut aujourd'hui permettre aux gens de diffuser tous en live autant qu'on est, que on en a tous le sens à diffuser du live. Est-ce
oui,
que finalement,
surtout
il ne faut pas commencer à réserver ça déjà à des entreprises, de faire certains nombres de vérifications avant,
oui, par exemple,
ce qui n'enlève pas, ce qui résout pas le problème à 100%. Il y a toujours des exceptions qui font que le truc... Mais quand même.
Après, on ne renonce pas non plus totalement à la vidéo en ligne, à l'expression, tu vois. Je veux dire, mais si un micro différé... Enfin, s'il y a un petit différé, que ce différé permet techniquement de faire un filtrage et que ce filtrage permet de protéger des gens, ben écoute, pourquoi pas, tu vois, c'est si grave que ça.
Sauf que là, le différé, en l'occurrence, ne règle pas le problème. Si jamais, justement, on constate que des contenus d'une vidéo live ont été rediffusés des heures et des heures et des heures après, c'est pas quelques minutes de tampons qui auraient changé les choses.
Oui, mais si on admet effectivement que Facebook Live, par exemple, imaginons, hein, et il prend 2 ou 5 minutes, il prend 5 minutes, ouais. Allez, je sais pas, 5 minutes, et pendant ces 5 minutes-là, il met des IA, et ces IA, elles analysent le truc, et elles disent, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là, ce qui est en train de se streamer, c'est inacceptable. Ben, le truc, il aurait jamais été uploadé, il aurait jamais été, tu vois, il aurait jamais été diffusé, tout simplement. Alors évidemment, il y aurait eu 5 minutes de décalage, mais est-ce que ça aurait pu suffire, justement, à faire en sorte que cette vidéo reste dans les limbes? Ben, écoute.
Et ça peut être effectivement une subtilité justement dans l'aménagement des choses, c'est de dire que des médias qui ont une certaine autorité, une reconnaissance dans leur métier, dans leur rôle justement de presse, pourraient diffuser du vrai live par souci de diffusion de la réalité, encore une fois, d'être au plus proche de la réalité, et effectivement que bah, tout le reste y ait effectivement de la latence. Encore faut-il que les IA arrivent à être efficaces en termes de modération. Justement, tu avais mentionné quelques éléments dans les notes de l'émission sur la modération, justement, spécifiquement sur Internet.
Oui, la modération automatisée, quoi. C'est Jigsaw, c'est une start-up financée par Alphabet qui va tester une extension Chrome, cette fois, donc facile à utiliser. Hein. C'est Tune, c'est pour filtrer automatiquement les commentaires. Donc en fait, c'est Perspective, hein, c'était une appli de modération automatique dont on avait déjà parlé et qui est utilisée par le New York Times, par exemple. Et là, c'est en version personnelle. Donc le principe, c'est le même. C'est un modèle de machine learning qui apprend ce qui est toxique et qui lit vos commentaires et donc te les épargne. Selon le niveau de toxicité que t'es prêt à tolérer le jour à ce jour, quoi, tu vois, ça va de calme à beuglant. Donc le système peut donc filtrer les commentaires de YouTube, Facebook, Reddit, Twitter et Discuss pour le moment.
Et comme perspective, c'est que notre patience est à critère, quoi. Enfin, on peut mettre différents niveaux dans notre tolérance.
Ah, ça dépend de ton humeur, je suppose.
Le lundi matin, tu fais pas la même chose que le vendredi soir.
C'est ça. Donc comme perspective, d'ailleurs, l'algo est relativement efficace quand il s'agit de premier degré, tu vois. Mais il manque toujours de subtilité pour détecter l'ironie, le second degré, évidemment. Donc ça veut dire, grosso modo, que les trolls qui t'agressent devront devenir subtils. Donc ça devrait dire qu'ils, ça veut dire aussi qu'ils pourraient pas en rester beaucoup. Alors, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle. Bon, est-ce que, voilà, les commentaires filtrés, de toute façon, sont affichés sous forme de points, donc ça veut dire qu'ils peuvent être affichés à la demande. Alors, je sais pas, est-ce que c'est politique de l'autruche automatisée ou véritable avancée dans la qualité de vie en ligne, à ton avis?
Bon, c'est difficile d'avoir une opinion sur ce genre de truc, je trouve. En tout cas, toutes les initiatives qu'on va pouvoir trouver de ce type-là sont des initiatives à explorer. C'est un peu darwinien, hein, ma vision, mais peut-être qu'on n'essaye pas cette chose aussi. C'est aussi ce que je remarquais, c'est qu'on a l'impression que on s'assoit sur un certain nombre de fonctionnements qui sont établis, et puis ben on attend d'être vraiment profondément choqué pour commencer à y réfléchir. Finalement, toutes les initiatives, aussi diverses et variées qu'elles puissent être, ben nous permettent de tester des choses. Ben, après tout, c'est les usages qui nous montrent aussi si jamais c'est satisfaisant ou pas, si jamais ça répond au problème ou pas. Alors justement aussi, peut-être une dernière lumière sur cette rubrique assez triste, hein, autour de la diffusion de contenu comme ça, extrêmement choquant, Facebook qui lance une intelligence artificielle qui détecte là aussi un sujet qui est extrêmement problématique sur le plan social et les échanges humains, et qui pourtant est peut-être plus simple à détecter encore que d'autres choses, parce que les critères sont peut-être un petit peu plus évidents et différents du reste du contenu qui est diffusé. C'est une IA donc qui détecte le revenge porn, Guillaume.
Ouais, c'est Facebook va lancer un outil algorithmique, hein, pour filtrer le revenge porn automatiquement. Alors, il n'y a plus besoin d'uploader des photos de toi-même compromettantes pour qu'elles soient éventuellement bloquées à l'upload ensuite. Là, c'est une IA, donc c'est évidemment là où on place tous nos espoirs, hein, qui regarde la photo et qui les commentaires en plus, bien entendu. Et bon, je ne veux pas savoir sur quel set de données elle s'est entraînée d'ailleurs. Mais bon, elle détecte les nudes, ou les presque nudes, couplés aux commentaires égrillards, quoi. Hein, et donc, c'est vrai que ça signe un ex très indélicat. Donc, si c'est le cas, le contenu est flagué, envoyé à un modérateur humain, hein, évidemment, et qui après, c'est avant même la mise en ligne. Alors, bon. C'est certain que ça sera pas suffisant pour éradiquer le revenge porn, d'autant qu'on a aucune idée de l'efficacité de l'algo, mais voilà, comme tu dis, tous les outils de lutte, je pense que sont bons à prendre, quoi.
Et ça vient en complément avec cette initiative là aussi de Facebook, hein, dont on avait déjà parlé, qui consistait à envoyer soi-même, alors quand on avait du coup connaissance d'une image qui pourrait être utilisée en revenge porn, de l'envoyer à Facebook, qui la chiffrait, qui en faisait une empreinte et qui détectait par la suite de manière assez proactive les diffusions de cette même photo ou de ce même contenu imagé en ligne pour le bloquer. Donc autant d'initiatives qui se multiplient là-dessus. Je pense encore une fois que la démarche darwinienne sur ce sujet sera peut-être la clé, sinon une amélioration, sinon une piste d'amélioration sur ce gros problème. Réagissez peut-être aussi à ce qu'on a pu avancer sur ce thème-là, sur techcafé.fr dans les commentaires. Dites-nous aussi de quelle manière vous voyez la diffusion de contenu et de quelle manière est-ce que vous voyez la responsabilité de ces plateformes sur la modération. Est-ce qu'il y a une problématique de stratégie, une problématique de moyens selon vous? Et est-ce que finalement on n'a pas aussi, comme on le disait tout à l'heure, un rôle à jouer sur les attentes qu'on a? Est-ce qu'on pourrait pas mettre de côté un petit peu nos exigences de diffusion en live au profit d'un contenu diffusé qui soit un peu plus sain? On enchaîne avec une autre rubrique, mais qui fait un lien assez direct avec ce qu'on vient d'évoquer. À croire finalement que ce contenu éditorial de Tech Café a été savamment pensé et savamment orchestré, c'est parfait. On va parler justement de la façon dont sont entraînées les intelligences artificielles. Alors, on le sait déjà, parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes de Tech Café, que les intelligences artificielles avaient besoin de beaucoup de contenu. Donc, par exemple, une intelligence artificielle qui reconnaît des chats a besoin de beaucoup de photos de chats pour être entraîner et pour parvenir par la suite à bien faire son travail. Et on a quelques infos sur le fonctionnement des intelligences artificielles d'IBM qui s'entraînent sur des sets de données en ligne, mais ça choque pas mal de monde, Guillaume.
Ouais, pour NBC la semaine dernière, c'est vrai que c'était le choc. Hein. IBM a utilisé 1 million de photos de visages récupérées sur Flickr sans le consentement ou même la connaissance à des propriétaires des visages en question. Hein.
Alors, je suis sûr que...
Ah là là, c'est vrai que d'ailleurs c'est... Alors, pour le coup, la réaction des chercheurs, à mon avis, ça a été beaucoup plus proche du « ouais, et alors ?»
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que c'est une manière de faire qui est très standard dans le domaine. Hein. Les algos sont affamés, hein, ils ont besoin de grosses quantités de données à bouffer. Il faut bien les trouver quelque part. En fait. Voilà, du coup, Flickr, Instagram, Facebook, évidemment, c'est des sources qui sont publiques et qu'on peut miner avec des API qui sont très pratiques. Et donc, où est-ce qu'ailleurs tu vas trouver des millions de photos de montagnes qui ont diligemment été taguées par les auteurs eux-mêmes?
C'est ça. Bon, voilà. C'est qu'en plus, les utilisateurs ont catégorisé leurs photos avec les bons mots-clés qui vont bien, quoi.
Bah, c'est du pain béni, tu vois. Puis c'est vrai aussi pour les textes. Tu te souviens de GPT, l'IA mythomane, là, qui écrit n'importe quoi, là, demande, mais très bien. Bah, elle a été entraînée sur des posts de Reddit. Est-ce que tu crois que les redditeurs ont tous été contactés? Non, mais tu rigoles. C'est, donc, au-delà du faux scoop, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on s'en fout ou pas, nous, d'avoir été utilisés? Surtout si une photo est publique, hein, tout le monde peut la voir, donc pourquoi pas un algo? Alors, je sais qu'éthiquement, on peut se poser la question. Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai tendance à être assez tolérant. Ma face a servi à une IA à apprendre à quoi elle ressemble un visage. Ben, écoute, elle a eu la chance d'avoir un aussi beau spécimen, voilà tout. Après tout, les chercheurs... Mais oui, exactement. Attends, elle a pu me contempler. Je suis dans ces trucs. Elle ne m'oubliera jamais. Bon, après tout, les chercheurs vont pas essayer de me vendre quoi que ce soit, tu vois, et c'est déjà pas si mal. Alors, ouais. C'est sûr que si c'est pour entraîner des drones tueurs, par contre, c'est vrai que ce sera peut-être pas la même chose. Tu
éthiquement,
vois.
Ça pose plus de problèmes.
Et ouais, donc le sujet est encore peut-être un peu plus compliqué que ce que j'ai l'air de dire, mais bon, voilà, à vous de vous juger.
Bon, en fait, le problème se situe peut-être un peu plus en amont, c'est-à-dire quand on rend, encore une fois, une photo publique, on l'a dit depuis très longtemps maintenant, je pense que c'est inscrit dans pas mal d'usages, c'est que quand on diffuse en ligne une photo, bon bah il faut considérer le fait que elle est diffusée sur Internet, donc accessible beaucoup plus largement qu'on ne peut le penser au départ. Mais donc du coup, c'est ici que se situe le problème. C'est au moment où on diffuse une photo, où on diffuse du contenu en ligne. Il faut pas s'interroger sur quelle manière est-ce que mon contenu va être exploité si jamais on le diffusait librement au départ. Intelligence artificielle toujours, puisque ça avance du coup, une fois qu'on sait bien reconnaître les visages, bien reconnaître les images, pour les parfaire et reconnaître les visages, et ça va pouvoir servir de moyen de paiement, en tout cas de moyen d'authentification de paiement en Chine, Guillaume.
Oui, la Chine est en pointe sur l'IA, hein. C'est même à tel point que si tout continue comme ça, elle pourrait dépasser les États-Unis en 2020, non seulement en volume d'articles publiés, mais même en termes de nombre de citations, ce qui est quand même assez notable. La Chine adore la reconnaissance faciale, hein, à tel point qu'elle en met partout. Et bientôt, peut-être, effectivement, tu pourras payer le métro avec ta face. Hein. C'est une expérimentation à Shenzhen, et c'est sous technologie Huawei, d'ailleurs, pour le moment. Mais bon, étant donné que tu peux déjà payer tes Wings, donc certains KFC en souriant à la caméra, je suppose que c'est quand même pour bientôt. Hein. Alors la question qui se pose plus que jamais, c'est est-ce que c'est le moment d'une régulation en la matière? C'est quand même deux sénateurs américains, il y a Roy Blunt, qui est républicain, et Brian Schwartz, qui est démocrate. Et main dans la main, ils veulent introduire la Commercial Facial Recognition Privacy Act. Donc elle interdirait aux entreprises de collecter, partager et revendre des données faciales, des fins commerciales, et sans le consentement des intéressés. Parce que bon, au-delà de la surveillance pour la sécurité au sens large, on va dire, il y a aussi toutes les possibilités de tracking des gens, quoi, à des fins commerciales, par reconnaissance faciale, en plus de tout le reste. Tu peux te traquer encore plus comme ça. Donc on sait qu'aux États-Unis, il y a des data brokers, hein, il y a des courtiers en données qui revendent en bloc des fichiers à qui l'on veut, il y a même des boîtes télécoms qui revendent des données de localisation, par exemple. Donc là, il serait aussi obligatoire de mentionner quand la reconnaissance faciale est utilisée, et il faudra aussi la certifier, c'est-à-dire certifier sa fiabilité auprès de la FTC et du NIST, c'est-à-dire National Institute of Standards and Technology. Et bon, on a déjà évoqué aussi que c'était pas du luxe, parce que bah, parfois, la précision de la reconnaissance faciale, elle est pas forcément super, c'est pas forcément super fiable, en tout cas, pas forcément super fiable pour tous les genres, donc à tous les sexes, et toutes les ethnies, ce qui est quand même un monde. Donc, c'est une proposition d'encadrement légal de la reconnaissance faciale, hein, qui est donc non partisane, ça c'est quand même beau, c'est débatifique, c'est très touchant, et en plus c'est soutenu par Microsoft, donc espérons que ça passe.
Ouais, tu dis que ça dépend des ethnies, évidemment c'est directement lié au set de données, au volume des... au type de données qu'on donne à digérer justement aux intelligences artificielles, c'est que si on lui donne 100 photos, enfin 100 évidemment pas suffisant pour permettre à une intelligence artificielle d'être performante, mais mettons 80% d'hommes blancs et 20% 15% d'hommes noirs et 5% d'hommes asiatiques, et encore je ne viens de citer que les hommes et pas les femmes, mais évidemment on comprend que c'est compliqué pour l'intelligence artificielle d'être performante quel que soit le visage. Et puis peut-être précision importante par rapport à ce qu'on décrit, hein, il s'agit bien du paiement avec la reconnaissance faciale et non pas de l'authentification pour un paiement avec une reconnaissance faciale. Je m'explique, avec Apple Pay par exemple, il y a Face ID qui se base sur la reconnaissance de votre visage, mais c'est pour valider un paiement. C'est pas ce qu'on décrit là en Chine, qui consiste simplement à vous payer, vous mettez votre visage et boum, ça fait le lien avec les moyens de paiement derrière digitalisés. On reste toujours dans cette rubrique légale, vous l'avez compris, hein, c'est notre petit set d'informations pour l'environnement légal, parce qu'il y a un sujet qui est probablement captivant, qui ressort là et qui va encore durer pas mal de temps, qui est assez intéressant. C'est celui de Spotify qui porte plainte contre Apple parce que ils considèrent qu'il y a des équilibres concurrentiels pour eux sur la plateforme d'Apple et donc sur iOS. Pour leur service, peut-être qu'on peut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. L'idée, c'est de simplement rappeler que, bon, en gros, Apple Music et Spotify sont grosso modo, allez, on va simplifier les choses, hein, il y a des subtilités, mais sont grosso modo au même prix, sauf que Spotify doit payer à Apple 30% des revenus des abonnements qui sont faits à Apple pour les abonnements qui sont faits sur iOS la première année, la seconde année ça tombe à 15%, mais c'est quand même 15%, et évidemment Apple leur interdit aussi de par exemple dire donc ne vous abonnez pas maintenant tout de suite, mais par contre rendez-vous sur spotify.com pour vous abonner, parce que ça dans le contrat d'Apple, les développeurs n'ont pas le droit de le faire. Donc, soit on passe par Apple et on refile le pourcentage qui va bien, soit on dit rien du tout, mais on dit même pas venez vous abonner sur Spotify.com, quoi. Quelques éléments peut-être de précision, Guillaume, sur ce sujet ?
Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. La pomme a des règles très strictes en ce qui concerne les paiements des abonnements in-app, donc parce qu'effectivement, il n'y a pas question qu'elle laisse passer les petits malins et esquiver les 30% de commission, quoi. Donc Spotify, ça sera bien passé. Il a essayé d'ailleurs, mais bon, c'est au fil des années, c'est devenu de plus en plus dur. Et donc, il voulait, comme tu disais, il permettait aux utilisateurs de s'inscrire et de payer via un site web externe, ce qui est devenu interdit. Et en 2014, Spotify a jeté l'éponge et il a utilisé le service de paiement in-app d'Apple. Donc, il a payé les 30% de com. Il a fait passer son abonnement de 10 à 13 dollars, je crois, par mois, pour compenser. Et en 2015, Apple a sorti Apple Music. Sauf qu'il a sorti à 10 dollars. Voilà. Et ça, parce qu'il va pas se taxer lui-même, hein. Il est pas complètement débile. Et donc, pour Spotify, c'est de la concurrence déloyale, de l'abus de position dominante. Alors, selon Apple, pas du tout, d'ailleurs. Il n'empêche pas Spotify de baisser ses prix. Bon, selon la Commission européenne, ça pourrait aussi très bien être vu comme un abus de position dominante. Les enjeux sont assez élevés, en Europe, d'ailleurs, parce que Spotify pourrait y avoir gain de cause. Parce que déjà, bloquer l'appli Spotify parce qu'elle utilisait un système de compte qui permettait de contourner le système de paiement interne d'Apple, et Apple, ça n'est jamais caché de ça, hein. Déjà, ça passe mal. En Europe, où on est plus tatillon, apparemment, sur les abus de position dominante, on a vu avec Google et Microsoft, ça passe déjà donc pas très bien. Mais alors, comme en plus, il y a Apple Music, un concurrent direct, voilà, effectivement, ça pourrait vraiment jouer en faveur de Spotify. Du coup, je suis très curieux de voir l'issue de ce procès qui pourrait avoir de grosses répercussions sur Apple.
Et en termes d'image, hein, Apple qui surfe sur le fait que Spotify s'adapte pas trop aux dispositions légales et essaye de répercuter sur la rémunération aux artistes, certaines évolutions, on rentre pas trop dans les détails, mais en gros, Apple joue sur l'image de nous, on accompagne, on valorise les artistes, et surfe sur le fait qu'effectivement, Spotify est pas toujours bien perçu sur la gestion de la rémunération à des artistes, mais évidemment, c'est pas le sujet, et on est sur des sujets beaucoup plus simples que simplement la relation avec les artistes. On est tout simplement, effectivement, sur quelque chose d'un peu abusif. Je reprends un petit peu, d'ailleurs, ce qui a été dit dans l'épisode de Niptech cette semaine, parce que j'écoute pas encore tous les podcasts que j'aimerais écouter, mais je continue à écouter Niptech. Où justement il disait effectivement que ce qui était le plus gênant, et c'est vrai que quand on le regarde c'est quand même assez déroutant, c'est d'empêcher une app de sortir d'iOS et d'aller sur un site web pour s'abonner. Netflix a fait un choix assez radical, hein, je crois, sur le sujet. Ils ont tout simplement tout retiré, c'est-à-dire que quand on s'appelle Netflix, on a une telle notoriété qu'on se doute que même sans le dire aux gens, ils vont aller sur Netflix.com pour s'abonner. Finalement, je me demande si ce serait pas la solution pour Spotify, même si évidemment c'est toujours un handicap et qu'on peut pas se satisfaire d'une telle solution. Un petit mot aussi sur les parties légales pendant qu'on parle d'Apple et de procès et de soucis en procès, parce que on peut pas évoquer ce qui se passe du côté de Qualcomm, Guillaume.
Oui, parce que la guerre Qualcomm-Apple continue, hein, c'est une bataille qui vient d'être gagnée par Qualcomm. La Cour lui a donné raison sur 3 brevets, donc il y en a un pour se réveiller de veille, un sur des optimisations GPU, et un autre sur une fonction de gestion du trafic, apparemment, pour optimiser les connexions. Bon, c'est une plainte qui date de 2007 et qui devrait rapporter 31 millions à Qualcomm. Alors c'est bien pour Qualcomm, hein, parce que d'un autre côté, parce que Apple versus Qualcomm, si tu veux, c'est le trône de fer. Il y a des histoires et des personnages éparpillés partout dans le monde, c'est un bordel infernal.
Et puis c'est récurrent, je veux dire, il y a des rebondissements tout le temps aussi pour reprendre.
Ah ouais, mais complètement.
En train de faire.
Complètement. Et donc il a été condamné à payer 1 milliard à Apple quand même, Qualcomm. Alors c'est beaucoup.
Oui.
Ça correspond à quoi? Ça correspond à une remise sur royalty, en fait, qui a été promise par Qualcomm, parce que c'est encore compliqué. En fait, les fournisseurs d'Apple doivent payer des royalties à Qualcomm. Et après, Apple les rembourse. Et ensuite, Qualcomm et Apple s'arrangent entre eux. Et Qualcomm a promis une ristourne, donc assez conséquente, hein, si Apple reste amical. C'est-à-dire s'il n'attaque pas, voilà, via des procès ou des autorités de régulation. Bon. Donc ça date de 2013, et entre-temps, la Corée a demandé des comptes à Qualcomm, qu'elle trouvait dans une position qui ressemblait furieusement à un petit monopole. Et bon, Apple a été amené à témoigner. Donc il a témoigné dans ce dossier, donc du coup, contre Qualcomm, quelque part, à charge. Et donc Qualcomm n'a pas apprécié du tout, et du coup, il a arrêté de lui faire le rabais. Mais d'après la Cour, Apple n'a fait que dire la vérité, et a répondu juste à une autorité télécom. Donc Qualcomm doit quand même payer les arriérés, soit 1 milliard de dollars. Alors le plus rigolo, c'est qu'Apple, de toute façon, avait déjà cessé de payer Qualcomm pour se rembourser lui-même. Donc du coup, il y aura probablement pas de chèque à sortir. Mais bon, il est quand même aussi peu probable que ça en reste là. Donc la suite au prochain épisode.
C'est sans fin. Ton image avec le trône de fer est quand même marrante. Allez, dernier sujet dans ces aspects un peu légaux, et puis surtout en surfant sur ce qui se passe autour de l'actualité Apple, avec des petites nouvelles, en tout cas des retours sur l'étude Apple Heart, qui sont des retours assez mitigés sur cette étude qui donc portait sur des volontaires porteurs d'Apple Watch pour détecter des problèmes cardiaques. Et c'est d'ailleurs Guillaume Promet, qui est un soutien fort fidèle de Tech Café, de longue date et fort fidèle, qu'on salue au passage, qui nous a aussi renvoyé quelques petits éléments. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette étude, Guillaume?
Alors, je vais être complètement clair, j'ai pas tout compris, en fait.
Ah, parce c'est compliqué, parce qu'on touche à du médical, et parfois, c'est pas tout.
Non, mais il me semble qu'il y a des trucs un peu contradictoires sur divers. Alors, l'étude est pas, et de toute façon, pas hyper concluante, j'ai l'impression. Mais... Alors, globalement, c'est, si je dis, qui a été sponsorisé par Apple, hein, quand même, c'est l'étude de l'école de médecine de Stanford, qui s'est faite en ligne, et via une application. Il y a 400 000 personnes qui ont participé, ce que je trouve énorme, mais heureusement, puisque de toute façon, il y a seulement 0,5% des participants qui avaient, donc, selon la montre, hein, des irrégularités de rythme cardiaque. Parce que c'est un truc qui a utilisé l'iWatch, mais bizarrement, pas la dernière qui est censée avoir une fonction électrocardiogramme, mais les autres. C'est la E, la 2 ou la 3. Bon. Bah, ça ne comprend pas tout, mais bon, d'accord.
Mais si, donc, enfin, grosso modo, la dernière fonction, c'est une fonction d'électrocardiogramme qui est sensiblement différente quand même de ce qui se passe, de ce qu'on peut détecter à la base du rythme cardiaque. Mais enfin bon, c'est du détail médical.
Ok. Alors bon, donc c'est un chiffre qui est relativement faible. Bon, ça semble indiquer que bon, y a le surdiagnostic pour être un peu assez limité finalement. Enfin, encore que je sais pas trop, parce que je vais être clair, j'ai pas tout compris. Voilà, vraiment j'ai pas tout compris. Parce qu'apparemment il y a 71% dans 71% des cas, les irrégularités de pulsations ont été validées par un électrocardiogramme. Après il y a 84% de ces 71%, donc manifestement, qui ont reçu donc ce truc de pouls irrégulier, qui apparemment ont, enfin, étaient censés avoir une fibrillation atriale. Déjà, ça part bien.
Auriculaire.
Auriculaire, un problème
du
cœur, au
cœur. Enfin.
Un problème au cœur, voilà. Et bon, au final, il y a que, par contre, 34%, donc, je sais pas, un tiers, hein, des participants qui ont reçu qui était censé avoir une fibrillation du cœur, qui ont passé un examen pendant 7 jours avec un électrocardiogramme sérieux, quoi. Et apparemment, il y a que 34% donc de ces gens-là qui ont reçu un deuxième truc sérieux, qui avaient vraiment une fibrillation. Et alors, voilà. Donc, c'est, alors.
Moi, je me rends même pas compte si ce chiffre est bon ou pas bon, en fait.
Ouais, voilà. Le problème, si tu veux, c'est que j'ai un petit peu de mal à savoir, parce que il y a quand même 84% des gens qui avaient des arythmies, apparemment, qui ont été des diagnostics, enfin, qui étaient censés avoir une fibrillation, mais ça a été, Bon, globalement, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a deux, c'est que j'ai trouvé, il y a un article en français que tu as pointé, et je retrouve pas exactement les mêmes trucs dans sa source en anglais. Parce qu'il parle de 450 personnes qui ont été suivies, je vois pas d'où il sort le 450. Après, il parle, donc il y a le 34%, bon, ok, mais du coup, il parle d'un échantillon plus petit, je sais pas d'où il sort l'échantillon plus petit. L'étude, elle est pas disponible de toute façon publiquement, en tout cas au moment où je parle. Et du coup, je suis pas complètement certain de savoir si c'est juste complètement pourri ou moins bof.
Ben, en fait, c'est tout le problème, on va pas se cacher, on n'est pas un podcast de spécialistes médicaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a là encore Guillaume Premier qui travaille sur les dispositifs médicaux, qui connaît très bien les manières dont sont certifiés les dispositifs médicaux. Donc, d'ailleurs, il pourrait peut-être revenir vers nous avec une capsule pour nous détailler les éléments. Je peux conclure quand même peut-être son mail. Je vais reprendre sa conclusion. Il dit, j'ai envie de dire que c'est nul, mais je suis un hater. Donc voilà, bon, je sais pas dans quelle manière est-ce qu'il faut reprendre au pied de la lettre ce qui nous redonne, mais en tout cas, on peut peut-être prendre avec des pincettes. Moi, il y a quand même un élément derrière, c'est que tu pointais du doigt le fait que ces technologies de détection de problèmes cardiaques allaient créer, je reprends des mots forts hein, volontairement pour caricaturer les choses, mais tu disais que ça allait créer des torrents de consultations non légitimes qui allaient engorger les services médicaux. Bon, vraisemblablement, on n'en est peut-être pas encore là, voilà, sur les volumes qui ont été communiqués et sur les tests qui ont été faits, on n'est pas sur de tels volumes. Sur les vidéos des spécialistes de l'univers cardiaque, on ne sait pas de quelle mesure est-ce qu'ils sont maqués avec Apple, mais en tout cas, ils ont l'air globalement contents. Ils disent quand même que ça peut être très perfectible. Donc finalement, c'est très compliqué d'en tirer des conclusions. Moi, quand même, avec du recul, au-delà des chiffres, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette démarche de recherche. Et si on n'en est pas encore aujourd'hui à une situation idéale, eh bien, c'est peut-être une étape dans laquelle on est, qui va peut-être être très longue, mais qui va permettre demain d'avoir des outils qui seront plutôt fiables et qui permettront de détecter des maladies. Et après tout, moi, je trouve ça plutôt cool dans la démarche. Et on peut peut-être saluer cette initiative de la part d'Apple, même si on peut beaucoup critiquer beaucoup d'autres éléments.
Mais l'iWatch 4, elle est plus
L'Apple
précise.
L'Apple Watch, tu veux dire?
L'Apple Watch 4, elle est plus précise, oui, tout à fait, bien sûr, que les autres, c'est au niveau du cardiaque ou pas?
En fait, elle a...
c'est juste le logiciel.
Elle a une fonction qui s'appelle l'électrocardiogramme et ne peut pas s'appeler électrocardiogramme n'importe quel appareil. Tu dois avoir certaines conditions de fonctionnement et de résultats pour t'appeler vraiment électrocardiogramme. Avant, en gros, il mesure une espèce de pouls, quoi, une espèce de rythme cardiaque, mais c'est pas un électrocardiogramme aussi détaillé que tu ne peux l'avoir avec l'Apple Watch Series 4 là, qui est une fonction qui s'active alors uniquement quand tu as acheté ton Apple Watch aux US, quand t'es américain, quand t'es pas sorti des États-Unis. Bon, je caricature, mais grosso modo on peut l'utiliser que là-bas, et qui fonctionne à la fois avec le capteur cardiaque qu'il y a sous toutes les Apple Watch, mais également avec la partie là, du petit bouton qui est tactile, mais surtout sur laquelle tu poses ton doigt, et il y a une connectivité qui se fait, qui permet d'avoir cette fonction électrocardiogramme que tu n'as pas avec les précédentes versions. Bon, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de discuter spécifiquement de ce sujet avec Guillaume Promet. Je sais que c'est un sujet qui l'intéresse et sur lequel il apporte peut-être plus de pédagogie que nous. Mais c'est voilà, c'est pas, on n'a pas un wow effect. Voilà, sachez-le. Allez, on enchaîne avec une rubrique qui nous permettra peut-être d'être beaucoup plus en terrain connu. Enfin, je m'adresse plus à toi, Guillaume, qu'à moi. Mais on est en pleine période fascinante pour l'actualité vidéoludique. Notamment parce que on est en phase de démarrage de la Game Developer Conference, donc évidemment, alors c'est un peu l'équivalent de donc pour les fanboys Apple, l'équivalent des WWDC, mais pour l'univers du jeu vidéo grosso modo, hein, c'est un peu aux développeurs, mais forcément il y a énormément d'infos qui concernent les utilisateurs et qui intéressent les consommateurs au final. Et a été annoncé, ben, la fameuse console, prenez des gros guillemets autour du mot console, de Google, ou plutôt le service de streaming de jeux vidéo de Google. Déjà, on a un nom, donc ça va s'appeler Stadia, comme un stade avec de l'IA dedans, Stadia.
Non, mais tu sais que c'est exactement ça, en fait. Hein. Tu sais que c'est le pluriel
c'est
de Stadium.
C'est vrai? Ah, oui.
Non, c'est pas ça, c'est le pluriel de Stadium.
D'accord. Ah ben du coup, ce qui est un, enfin moi perso, je trouve que c'est un excellent nom. Je trouve que c'est plutôt sympa et qui promet, ben tout simplement de d'accéder à des jeux vidéo streamés en ligne. Donc il y a pas de console locale. C'est l'apologie absolue du jeu cloud calculé, quoi, qui est calculé par des serveurs avec de la 4K HDR en 60 frames par seconde, mais évidemment à condition d'avoir du bon débit et qui va directement rivaliser avec les performances qu'on peut avoir avec des PS4 ou des Xbox One dernière génération. Guillaume, est-ce que t'es tellement hypé par les performances que ça y est, tu attends avec impatience Google Stadia dans ton salon, ou est-ce que tu pleures des larmes de sang en constatant que ça y est, c'est défini, le dernier clou du cercueil du jeu vidéo matériel vient d'être enfoncé?
Oui, alors ça que dalle, hein. J'y crois pas du tout. Non, mais alors là...
T'as senti que ma question, elle était un peu caricaturale encore. Hein.
Non, mais alors déjà, Stadia, si tu veux y jouer dans des bonnes conditions, il faut avoir au minimum 25 mégaoctets de débit. En tout cas, minimum. C'est ce qui est conseillé, quoi. 25 mégas pour jouer en...
Qui n'a pas 25 mégabits par seconde?
Oui, voilà, c'est évidemment, bien entendu, tu vois. Qui n'a pas 25 ou 30, même si tu joues en 4K?
Bon, soyons clairs, ça se démocratise, mais bon, tout le monde
ça se démocratise, mais bon, en gros, faut la fibre, hein. Donc, tout le monde ne l'a pas, clairement. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le choix, de toute façon, d'utiliser Stadia. Ouais. Et après, si tu veux, au niveau du lag, ça... C'est pas très impressionnant. C'est-à-dire que sur les vidéos de démo, on a parfois l'impression qu'il y a un tout petit peu de lag.
Ah, c'est intéressant parce que moi, je relais ça avec les relais que j'en ai vus. Donc, je fais du mauvais journalisme de base. C'est-à-dire que je vais pas remonter à la source.
Pas complètement...
Toi, c'est intéressant. T'as regardé ça et tu perçois des lags, c'est ça?
Ben, il y a des fois, on a l'impression, effectivement, qu'il y a un petit lag. Or, il faut quand même bien se dire que ça doit être des conditions idéales en démo. Je veux dire, le truc, il est en Ethernet, je sais pas combien de gigabits, quoi, mais c'est pas possible, tu vois. Ouais. Ils ont pas. Donc, moi, merde. J'imagine avec ma connexion Wi-Fi chez moi, à une heure de pointe chez SFR câble, je sais pas ce que ça va donner, très honnêtement. Je suis un petit peu circonspect, d'autant que évidemment la qualité de l'image va varier en fonction des variations de débit sur ta ligne, quoi. Donc c'est pas complètement clair que ce soit l'avenir total de tout le jeu vidéo du tout. D'autant qu'en fait, j'avais vaguement vu un truc aussi qui disait que, et c'est vrai que c'est très juste, finalement, il y a très très peu de jeux qui ont été montrés à ce truc-là. Il y a Doom Eternal, il y a d'autres jeux qui ont été évoqués, il y a Assassin's Creed, bon ok, très bien, super. Mais il y a quand même 2 jeux et demi, alors qu'ils ont passé leur temps à parler de Chrome et de YouTube. Bon. C'est parce que globalement, l'intégration de Stadia, elle se fera via YouTube.
Voilà, faut peut-être préciser le fait que, en gros, pour les streamers, c'est la promesse idéale de dire que t'as ton serveur distant qui lance ton jeu, qui du coup stream. Enfin, en gros, tu t'occupes de rien, t'as juste ta manette, quoi.
Ouais, la manette. Alors donc effectivement, il y a une manette aussi. On est obligé de le dire, bien entendu, qu'il y a une manette spécifique qui sera. Oui, ça elle a l'air très bien. Il y a pas de souci. Cette manette, elle sera d'ailleurs obligatoire si tu veux jouer sur la télé. Sinon, ouais. Tu pourras coupler d'autres choses à ton Chrome sur ton PC. Sinon, si tu as pas, voilà, je pense que tu pourras jouer via un Chromecast. C'est ça qu'ils ont dit. Ouais. Donc ça, c'est évidemment sur la manette. Il y a quoi? Il y a un bouton share. Hein, et ce share, il va sharer évidemment sur YouTube. Donc tu peux streamer en. Voilà, c'est complètement seamless en fait. Et ça sera l'inverse sera vrai aussi. C'est-à-dire que si tu regardes un jeu être joué, s'il est disponible en Stadia et que tu es abonné Stadia, bah, tu pourras y jouer en quelques secondes.
Logiquement.
Ce qui est assez fort, quand même, il faut avouer. Et du coup, on peut se demander si Stadia, malgré l'incroyable investissement et l'incroyable infrastructure, c'est quand même 7500 data centers dans le monde pour soutenir Stadia, c'est monstrueux. Hein. Mais malgré tout ça, on peut se demander si c'est plus un truc qui est destiné à contrer Sony, Microsoft ou Twitch. Et Amazon, du coup. Ouais. Parce qu'Amazon possède Twitch. Parce que Twitch, c'est quand même un truc qui est... YouTube est encore probablement le numéro un du gaming, parce que je pense que c'est sur YouTube que les gens regardent encore le plus de gaming, mais Twitch est vraiment pas,
Twitch, tu vois, c'est quand même un concurrent extrêmement sérieux sur le sujet.
C'est extrêmement sérieux, exactement. C'est, enfin, le nombre d'heures.
Quand tu vois les gens qui invitent les autres à regarder des parties, c'est toujours sur Switch. Tu peux découvrir du contenu, toi, de par tes recherches ou parce que tu tombes sur quelque chose sur YouTube, mais quand quelqu'un te recommande du contenu sur les réseaux sociaux, quand tu vas voir les personnes qui t'amènent du contenu jeu vidéo à regarder, c'est sur Switch.
Oui, mais YouTube, c'est plus, tu regardes des let's play, tu regardes des gens jouer à des jeux, tu vois, mais pas forcément en direct, en fait. Twitch, c'est encore, c'est plus le direct encore, évidemment, et puis bon, tu peux aussi regarder un petit peu ce que tu veux, mais globalement, on a l'impression que YouTube est gros et quand même une plateforme qui compte beaucoup sur le gaming, où le gaming est quand même très important, et Twitch vient le chatouiller, et Stadia, si tu veux, c'est un truc pour mettre tout le monde d'accord, quoi. C'est-à-dire que si en plus tu peux regarder le jeu, mais que tu peux y jouer à n'importe quel moment, que tu peux streamer sans avoir une machine de stream, parce que mine de rien, ça, c'est quand même, il faut quand même une machine puissante, etc. Ben oui, ça peut faire la différence. Et quelque part, Stadia, est-ce que c'est pas plus un truc qui va soutenir YouTube plutôt que vraiment une entrée purement et simplement dans le monde du jeu vidéo? Alors bon, il y aura quand même des jeux first party, il y aura quand même des jeux Stadia, exclusifs Stadia, puisqu'il y a quand même un studio de développement qui sera avec Jade Raymond à sa tête, ex Ubisoft, qui sera donc pas destiné à donner des gros jeux, tu vois, mais pour le moment, on a vraiment plus l'impression que Google met l'accent sur son infrastructure et sur le fait que Stadia va s'intégrer de manière naturelle à tout l'écosystème Google et qu'il va soutenir Chrome, il va soutenir Android, il va soutenir YouTube. Donc c'est quand même
ce qui montre un petit peu la maladresse, je crois, de certains acteurs qui veulent investir des nouveaux acteurs, qui est de jongler avec leurs anciens arguments. Tu sais, c'est Google qui aurait pu d'ailleurs faire la même démonstration, mais avec des partenariats, avec des studios, avec des titres qui permettent de comprendre la consommation du jeu vidéo tel qu'on peut se l'imaginer. Et là, ils viennent avec des arguments d'ingénieurs, quoi. Ils viennent avec des arguments de teraflops. En gros, on va avoir, hein, pour la petite anecdote, 10,7 teraflops de performance avec Stadia. Là où on a, en gros, 6 pour la Xbox One X et 4,2 pour la PS4 Pro. Donc, au concours de qui a la plus grosse, c'est eux qui gagnent. Mais finalement, c'est pas forcément l'argument que tout le monde retient pour consommer du jeu vidéo aujourd'hui. Il y a un exemple qui est parfait sur le sujet, c'est la Switch, qui est clairement pas une console qui est axée sur les performances brutes et sur cette performance graphique, mais qui a réussi à tirer son épingle du jeu. De mauvaise langue dirait qu'ils ont pas réussi à la tirer aussi bien qu'ils auraient pu dû le faire ou qu'ils avaient annoncé le faire, mais c'est quand même un succès assez incroyable pour Nintendo. Et le contenu, l'intelligence de la manière dont tu amènes tes jeux est clé dans le jeu vidéo, et c'est un petit peu comme si aujourd'hui on sortait une annonce d'une trilogie de films en ne parlant que de la résolution et des couleurs, sans parler de l'histoire, quoi, sans parler de l'histoire qu'on va raconter. Et c'est peut-être l'erreur que commet Google là-dedans. Et l'argument,
je sais pas.
C'est ce que j'ai perçu. Et l'argument de dire que oui, mais ils vont se différencier sur les streamers est intéressant. Mais cela dit, c'est, alors peut-être sauf à ce que je me trompe et que je ne réalise pas à quel point le streaming de jeux vidéo est devenu quelque chose de clé, il ne semble pas que c'est aujourd'hui quelque chose qui fait basculer un consommateur, quoi.
Alors, c'est quand même important. Il y a quand même une audience qui est quand même faramineuse. Enfin, je veux dire, le nombre d'heures regardées sur YouTube et sur Twitch, se chiffre en millions, voire en milliards.
Tu parles de consommateurs, bien sûr, mais en termes de producteurs de contenu animé sur la base de jeux vidéo joués, aujourd'hui, tu demandes à 50 personnes dans la rue combien vont te dire « je choisis mes jeux vidéo en fonction de ce que je vais diffuser sur YouTube », quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a le, bon, je sais pas, je suppose quand même que le partage, tu vois, entre amis, c'est quand même important. Si c'est vraiment de manière complètement seamless et immédiate, peut-être que ça va motiver des gens. Bon, ça, c'est vrai que c'est compliqué à savoir, hein, très honnêtement. Je voulais aussi répondre à un tweet qu'on avait reçu. Tu te souviens sans doute, puisque comme tu disais, les serveurs Stadia donc sont très puissants, hein, donc 10 teraflops, 16 gigas de RAM, des CPU customisés. La question c'était, est-ce que c'est encore une catastrophe écologique en puissance?
Intéressant ce sujet.
Oui, tu as, bon, voilà, tu as vu. Donc, effectivement, c'est une question qu'on nous avait posée sur le Twitter.
À laquelle je suis incapable de répondre.
Et en fait, au point de vue empreinte carbone, donc évidemment, c'est difficile à estimer sans chiffres, tout ça. Bon, voilà, c'est, même si, bien sûr, un data center de jeu, ça va consommer énormément d'énergie, c'est certain. Ben, je pense qu'il faut se rassurer. Hein, il n'est pas du tout certain que Stadia soit pire qu'acheter une console de salon. Sauf, évidemment, si tu joues sur Switch, parce que c'est, au niveau consommation, il est assez imbattable. Alors, parce que Stadia possède beaucoup d'avantages en fait. Hein. Déjà, le fait que le serveur soit plus puissant qu'une Xbox One X ne veut pas dire qu'elle consomme plus d'énergie. En fait, c'est même certainement l'inverse, puisque la Xbox One X, elle est gravée en 16 nanomètres, et que Stadia, donc, qui a un partenariat avec AMD, va très très certainement utiliser les dernières générations des puces AMD qui utilisent du 7 nanomètres.
Ouais, et qui donc Stadia probablement des data centers qui n'ont pas la consommation énergétique qu'on a quand on branche notre Xbox One X qui est alimentée par du bon vieux jus par EDF, quoi.
Bon, alors, en plus, effectivement, il y a, donc, faut pas oublier que Google paye les factures, quand même, hein.
Oui.
Et donc, aussi, ils ont intérêt à ce que les machines consomment le moins possible, tu vois. Et donc, comme tu dis, la mutualisation, ça a du bon, parce qu'on peut partager les composants, bon, par exemple, les alim, qui peuvent être mutualisés, le refroidissement est mutualisé, effectivement, la distribution énergétique, si tu veux, dans le domaine pro, en général, c'est de très bonne qualité, en fait, et c'est meilleur que ce qu'on a à la maison. Donc, en gros, 1000 personnes
qui jouent
sur
Stadia. C'est meilleur que ce qu'on a à la maison de manière décentralisée, ouais.
Oui, voilà, c'est ça. C'est 1000 personnes qui jouent sur Stadia, ça consomme probablement moins d'électricité que 1000 personnes qui jouent sur One X ou sur PS4 Pro.
Ouais, voilà.
En outre, il faut aussi tenir compte de la fabrication des machines. Alors, une PS4, ça pollue aussi à la fabrication, évidemment. Puis ça pollue lors du transport, dans les entrepôts, dans les magasins. Elle consomme quand tu joues, elle consomme quand tu la laisses en veille et que tu joues pas, d'ailleurs, aussi. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas en veille vos machines parce qu'elles consomment beaucoup trop. Bon, et en fait, elle n'est utilisée qu'une fraction du temps. À l'inverse, les Stadia, bah, évidemment aussi ça pollue hein, quand tu fabriques un truc comme ça, bien entendu. Mais elles, par contre, elles sont destinées, il faut qu'elles soient utilisées à 100%. Il en va de la rentabilité du truc. Hein. Donc du temps, enfin, 100% du temps. Donc, par exemple, si ta PS4 profite à 4 autres personnes, bah, donc toi t'y joues pas, bah, c'est 3 consoles d'économiser, tout simplement. Donc au niveau global, 1000 joueurs, bah, c'est 1000 PS4, mais ça peut être juste 200 Stadia, par exemple. Donc si tout le monde jouait sur Stadia plutôt que sur One ou sur PS4, en fait, la différence de consommation électrique serait pas forcément en faveur du local, malgré le fait qu'il faille quand même effectivement acheminer les images et donc alimenter des routeurs aussi, parce qu'en comparaison, quand même, le calcul brut, bah, c'est ce qui est c'est la grande proportion, quoi, hein, plutôt que le truc de véhiculer. Et donc l'impact carbone de Stadia, bah, ça dépend aussi, ça dépend quand même de plein de choses, et puis ça dépend aussi de comment Google alimente ses fermes. Et lui, il est quand même gros, il a le pouvoir de choisir aussi, tu vois. Donc s'il se fournit avec des sources qui sont peu carbonées, ben Stadia sera peu carboné, alors que toi ou moi, ben on n'a pas le choix, on prend ce qu'on nous donne. Et donc c'est pas forcément plus propre de jouer avec une PS4 Pro qui est alimentée par une centrale à charbon, alors pas en France, bien entendu, mais bon, ça peut être le cas dans d'autres endroits du monde, quoi. Et bon, pour finir, en ce qui concerne les jeux physiques aussi, ben oui, la fabrication des Blu-ray a aussi un impact environnemental. Et aussi douloureux qu'il me soit de l'admettre, hein, mais bon, avec les gigas et les gigas qu'on doit mettre à jour à chaque fois qu'on allume une PS4 à chaque mois, je me demande si les disques ont encore une pertinence, en réalité, puisque déjà, voilà, il faut télécharger énormément de trucs, tous les jeux sont disponibles sur le serveur et en ligne.
Le café, c'est combien le patch record, là, de téléchargement?
The Division 2, c'est 90 gigas sur PS4.
Compte,
bravo, quoi. Bravo, quoi. C'est une honte. Bah oui, c'est une honte, mais bon, voilà, quoi. C'est pas parce que je gueule que ça va changer, quoi.
Non, c'est sûr.
Donc, malheureusement.
Quoique.
Mais tu vois, donc c'est pas complètement clair. Alors évidemment, tout ce que je dis, c'est pas très précis, hein. C'est des analyses très, au doigt mouillé, évidemment. Donc on peut pas vraiment affirmer que Stadia est vert ou pas. Stadia est polluant, bien entendu, mais n'oublions pas qu'il envisage de remplacer un autre truc qui est aussi polluant, en fait. Hein. Donc pas de panique pour ça. Il y a bien d'autres raisons de paniquer au niveau écologique de toute façon.
Ouais, c'est clair. Et sur le plan écologique, il y a d'autres raisons de paniquer et il y a d'autres choses qui me paraissent encore plus peut-être critiques. C'est ce sur quoi tu as déjà sensibilisé tous nos auditeurs depuis belle lurette dans ta café, parce que j'aime bien utiliser de temps en temps l'expression belle lurette. Je trouve que ça c'est pas assez utilisé de nos jours. C'est le fait de contribuer au patrimoine vidéoludique et là c'est le problème directement de la dématérialisation, c'est-à-dire qu'en ayant des vieilles cartouches NES aujourd'hui qu'on peut encore mettre dans des vieilles consoles NES ont fait perdurer le fonctionnement des consoles, mais en faisant en sorte qu'elles dépendent d'Internet ou pire, qu'elles soient uniquement disponibles en ligne, en streaming, on ouvre la porte au fait que le patrimoine vidéoludique puisse disparaître petit à petit, ou en tout cas ne pas être aussi bien suivi. Ce à quoi Google pourrait là aussi avoir des propos. Moi, je les ai vus longtemps avoir des propos, alors que beaucoup qualifieront d'hypocrite, peut-être à raison, hein, mais de vouloir conserver les archives littéraires avec Google Books, etc., et de permettre de numériser beaucoup de contenu, de donner des outils aux bibliothèques pour numériser les livres, etc. C'est dommage, je trouve que Google n'en profite pas pour prendre parole en disant qu'il pourrait contribuer à la conservation du patrimoine du jeu vidéo en tout bon moteur de recherche qu'il est. Je trouve que ce serait super cool, et ils ont manqué leur coup là-dessus. On continue et on termine peut-être avec les jeux vidéo. Tu as carte blanche, Guillaume, à la façon d'un paraculte, pour nous donner un petit peu le pouls des conférences autour de l'univers du jeu vidéo et du matériel pour le jeu vidéo.
Oui, alors c'est pas encore tout à fait, parce que la GDC, là où on vous parle, la GDC et la GTC viennent juste de s'ouvrir, hein, c'est loin d'être fini. Donc la GDC, c'est la Game Developer Conference, et la GTC, c'est la GPU Tech Conference, qui est un événement Nvidia. Alors, de toute façon, l'un ou l'autre, tout ce qu'on peut dire, c'est que déjà le futur sera rétracé, puisque à la GDC, Unity a fait une démo incroyable, hein, d'une voiture, une BMW, affichée en temps réel, photoréaliste, avec tous les reflets qui vont bien, c'est bluffant, et ça montre bien le potentiel d'Unity en tant que logiciel de visualisation professionnelle à temps réel, quoi. Et ça montre aussi qu'Unity supporte le RTX de Nvidia, donc pour l'accélération du ray tracing, qui fait des débuts timides, il faut dire, mais ça vient petit à petit. Alors, tu notes bien que je dis l'accélération du ray tracing, parce que RTX n'est pas nécessaire, en fait, hein, pour faire du ray tracing sur GPU. Et d'ailleurs, Nvidia lui-même propose désormais le ray tracing sur les cartes de série 1000 et 1600, donc les 1080 et les 1600, par exemple, qui sont des cartes qui ne sont pas équipées d'instructions qui accélèrent le truc, mais elles sont quand même compatibles avec le ray tracing, et ça marche aussi bien, c'est juste que c'est plus long. Alors, genre vraiment plus long, par contre, il faut compter 4 fois entre une 1080 Ti et une 2080 qui est équipée en RTX. Ouais. Mais bon, ça marche quand même, et donc le ray tracing utilisé de manière parcimonieuse peut être accessible à virtuellement tout le monde, en fait. Alors, il y a encore mieux que ça, d'ailleurs, les ingénieurs de chez Crytek, qui sont de très très bons ingénieurs, hein, on le sait, avec qui ils produisent donc le CryEngine.
Hein? La tech qui pleure.
Ah non, mais attends. On a réussi à faire une démo. Eux, ils ont réussi à faire une démo en temps réel de ray tracing sur une carte AMD qui est une Vega 56. Donc c'est une carte puissante, mais qui est absolument pas optimisée pour ça, quoi. Le moteur proposerait d'ailleurs dans un futur proche le ray tracing donc pour tout le monde, puisque si c'est sur AMD, je veux dire, ça peut être sur n'importe quoi, ça marchera tout aussi bien. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout impossible que la PS5 soit équipée aussi. Il y a des rumeurs qui sont nées à partir d'une offre d'emploi. Bon, ça va dans ce sens, mais on peut pas vraiment dire quoi que ce soit pour le moment. Alors c'est pas beau ça, le ray tracing pour tout le monde.
Oh bah écoute, tant mieux. Oui, moi depuis que j'ai compris ce que c'était et quels en étaient les apports, j'ai hâte de voir ça. Effectivement, j'ai hâte de voir ça.
Alors c'est la GDC aussi, c'est aussi la GTC, comme je t'avais dit, la GPU Technology Conference en ce moment. Et donc Nvidia montre toutes sortes de trucs, et il y a un truc impressionnant, je suppose que t'as vu ça, c'était à base donc de deep learning, hein, il s'appelle Gauguin, et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de paint, mais c'est un paint infinity.0, quoi, tu vois, c'est le
j'ai
truc,
c'est
tu fais un schéma.
Ça, hein, pour info, je découvre, j'avoue que c'est
pas
un sujet
simple.
Que j'ai suivi.
C'est assez simple. Tu fais un schéma tout moche, tu lui dis là où est le ciel, où sont les collines, où sont les arbres, où c'est de l'eau, tu vois, et après, il y a un paysage photoréaliste qui apparaît.
Impressionnant.
Donc, alors c'est impressionnant, je vous invite à voir la vidéo, c'est assez incroyable parce que le truc c'est par exemple quand tu fais, admettons que tu fasses donc une montagne, tu fais voilà, et après coup la au pied de la montagne tu fais un lac, et la montagne se reflète dedans.
Ah, c'est incroyable.
Et c'est pareil pour un arbre qui peut avoir la forme que tu veux, qui se reflète dans un petit ruisseau, enfin voilà quoi. Quand tu changes, par exemple, tu fais de l'herbe avec une montagne au fond et un ciel avec des nuages, quand tu changes l'herbe que tu utilises, la neige, le ciel change en conséquence. C'est assez extraordinaire.
C'est incroyable, ouais. C'est hyper bluffant.
Alors, il y a encore... Bon, évidemment, c'est... prototypique, il y a encore des petits problèmes de jointure, ce genre
ouais,
de truc.
Ouais, enfin bon.
Mais ça, c'est déjà assez fou. Et bon, ça laisse présager de, comment dire, d'outils d'assistance à l'illustration, quoi, au travail artistique, qui est vraiment absolument incroyable. Pour l'instant, ça tourne sur une Titan, mais bon, je veux dire, donc c'est en temps réel sur une Titan. Ça veut dire que sur un ordinateur normal, ça prendra peut-être quelques dizaines de secondes, quelques minutes de rendu, mais ce serait, c'est tout à fait possible à faire, en fait, hein, sur, ou en ligne, par exemple. On pourrait parfaitement imaginer ça. Donc c'est vraiment un truc très impressionnant. Et encore une fois, avec ces IA qui génèrent des photos, en fait, qui génèrent des images. Mais on arrive de plus en plus à les commander, quoi, si tu veux, à régler ce qu'on veut et à s'en servir pour créer des choses personnalisées, quoi. Donc c'est assez, c'est vraiment très très fort.
J'aurais jamais cru que avec des trucs à la Paint comme ça, on arrive à faire des choses aussi magnifiques. C'est invraisemblable.
Et ouais, donc il y a toujours avec la réponse de Nvidia à Coral de Google dont on parlait dans l'épisode précédent. En Coral, c'est donc, en gros, c'est le Raspberry Pi intelligent puisqu'il a une puce neurale qui lui permet d'accélérer l'inférence sur des réseaux de neurones. Mm-hmm. Donc ça permet d'équiper de petits robots, des drones, des machins, enfin un petit peu ce que tu veux en fait. Hein. Et ben Nvidia, bien entendu, est pas en reste puisqu'il propose une version nano de Jetson qui est donc un mini ordinateur, pareil, ce format Raspberry Pi hein, globalement, hein, plus ou moins un petit peu plus gros, mais bon. Ce Jetson, c'est quand même une grosse bestiasse puisque c'est 4 cœurs à 57, 4 Go de RAM, gigabit Ethernet et surtout donc une petite GPU 128 cœurs qui peut développer jusqu'à 472 gigaflops, ce qui est vraiment impressionnant, qui peut être utilisé pour faire des trucs, enfin pour faire donc des pour utiliser enfin, des algorithmes qui sont quand même assez lourds quoi.
47
et tout
fois
ça,
plus que Google Stadia, dis donc. Pardon.
Que Google Stadia?
Ouais, non, c'était... non, t'as dit combien de...
472 gigaflops. Des gigaflops, pas des teraflops.
Excuse-moi.
Oui, tu t'es emballé, je pense. Parce que mais c'est vrai, 472 teraflops, ça viendra sans doute. Hein.
Sans
mais t'es pas encore pour tout de suite.
C'est pas demain.
Surtout à 5 watts. Puisque la carte consomme 5 watts et surtout, elle coûte $99.
Ouais, surtout à ce prix, du coup.
C'est génial. Oui, surtout à ce prix, c'est bien. Hein. Mm. C'est que c'est une carte qui est vraiment super intéressante parce qu'elle est ultra accessible, qu'elle est vraiment très puissante, que ça peut vraiment donner des idées à plein de hobbyistes, tu vois, enfin plein de gens qui sont un petit peu là-dedans, quoi. Donc à tous les bidouilleurs, c'est vraiment super.
Très belle créativité matérielle. Et du coup, Toyota aussi. Alors oui, je l'aurais pas vu venir dans cet univers.
Ben alors oui, parce que en fait on parle du projet Constellation, Drive Constellation. Donc Drive Constellation, c'est une suite d'outils qui est donc fabriquée et commercialisée par Nvidia pour les voitures autonomes. Et donc leur truc, c'est que il y a deux, bon, c'est en deux composantes en gros. Tu as une composante qui est un serveur avec des grosses GPU qui génère un environnement photoréaliste de route. Mmh. Alors des routes, n'importe quoi, autoroute, route de montagne, route, n'importe quoi. Et après, tu as un autre donc serveur qui, lui, va simuler une voiture autonome dans cet environnement. Et ça permet de, tout simplement, entraîner des voitures autonomes à rouler. Dans des conditions, de manière totalement virtuelle. Et donc, ça permet de les entraîner en particulier dans des conditions qui pourraient être dangereuses sans aucun problème. Tu peux, voilà, les mettre sur une autoroute avec plein de gens, il n'y aura jamais de problème, quoi, tu vois. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Toyota, donc, est le premier client de Drive Constellation et ils vont travailler ensemble avec Nvidia pour parfaire leur logiciel de conduite autonome et pour peut-être les intégrer à la suite dans des produits Toyota. Et Nvidia, lui, de toute façon, va aussi tester un nouveau framework qui s'appelle Safety Force Field, qui est donc un module c'est un logiciel de conduite qui se base sur un principe qui est très simple en fait, c'est un principe de répulsion, c'est-à-dire que les voitures se repoussent les unes les autres comme des aimants, et c'est la principale force en fait. Et après il y a tout le reste, bien entendu, respecter le code de la route, mais à la base il y aura cette espèce de champ de force qui permettra aux voitures de s'éviter au maximum, disons. Donc voilà, c'est des choses qui sont donc en test de manière totalement virtuelle et qui donc tournent sur des gros serveurs Nvidia. Voilà, c'est des robots qui s'entraînent dans des univers virtuels.
C'est très sympa de ma foi. Merci pour cette revue autour de l'univers du matériel pour l'image qui vraiment décidément évolue plus que jamais. On a fait le tour de nos grandes rubriques de news de la semaine et comme tout bon épisode de Tech Café, on enchaîne avec une ultime, presque ultime, rubrique en bref. On va essayer de les enchaîner assez rapidement, d'autant plus que là aussi, manque de dispo de ma part, je pense qu'il y a plein de news que je vais découvrir en même temps qu'on va les dérouler. On commence avec un test de bus autonome en Angleterre.
Oui, bah on a presque tout dit en fait, hein. C'est le premier test de bus autonome en Angleterre, donc ça sera à Manchester, et bon, il va pas aller très très loin, il va se balader un petit peu dans le parking, il va aller se faire nettoyer, se faire toiletter au lavomatique le plus proche, mais bon, c'est le début donc de tests, on va dire, dans la vraie vie, quoi, de bus autonome, et il faut savoir, on avait déjà dit, je crois d'ailleurs, qu'en 2020, il y a des bus qui devraient, normalement, dans la région d'Édimbourg, faire les navettes, de manière complètement seule. Et bon, voilà, de toute façon, il y a une grosse bourse de 4,5 millions de livres du gouvernement anglais, qui donc vise à développer des bus autonomes, donc voilà, c'est parti. On sait que de toute façon, la conduite autonome, ce sera au début pour des navettes, des taxis et apparemment des bus, avant d'être des véhicules particuliers.
Si jamais il y a bien un véhicule que je vois bien autonomifié rapidement, c'est le bus, quoi. Le bus, il fait toujours le même trajet. Alors oui, il doit s'adapter par rapport à des situations inhabituelles qui peuvent arriver. Enfin, il fait toujours le même trajet, au point que ça fait des années qu'on a des tableaux avec des horaires à la minute près où est-ce qu'ils peuvent passer, à quel endroit. Donc oui, ok, bah, parfois il y a des retards, mais enfin, s'il y a bien un truc qu'on peut autonomifier, oui, j'ai décidé de dire ça comme ça, c'est bien les bus, c'est clair. Il n'y a pas que Google qui veut sa part d'investissement dans l'univers du jeu vidéo, il y aurait aussi Snap qui est derrière Snapchat, Guillaume.
Ouais, Snap devrait officialiser son projet Cognac, qui est donc en gros sa plateforme de jeu pour le mois prochain. Voilà, c'est Cheddar qui a noté ça. Bon, apparemment, c'est pas vraiment un secret. Snap a acheté une petite boîte australienne qui s'appelait Pretty Great, il y a un an. C'était dans les 8 millions 6.
Bon, c'est il semblerait. Derrière Fruit Ninja.
Exactement, ceux qui sont derrière Fruit Ninja, donc quand même. Et voilà, donc apparemment, Snap veut aussi devenir une plateforme de jeu. Ça paraît assez logique, je suppose. Il me semble que Messenger a déjà des jeux intégrés.
Messenger, ok, il y a des jeux sur Messenger, mais alors je serais très curieux de savoir qui joue sur Messenger, quoi. Franchement, signalez-vous dans les commentaires sur techcafé.fr si jamais vous jouez sur Messenger, parce que je trouve que le format est pas très clair et m'a pas l'air très très engageant, quoi. Autant Messenger, c'est très puissant pour de la messagerie, pour les jeux, bref. Un petit mot autour de la VR aussi, Guillaume.
Oui, deux petites news VR. Une news pour dire que Michael Abrash s'amuse beaucoup chez Facebook. Abrash, c'est un vieux de la vieille qui donc a été à l'origine, enfin qui a contribué à fabriquer les premiers moteurs 3D. C'est un ingénieur très brillant qui donc travaillait chez Oculus, qui maintenant travaille chez Facebook. Et ce gars s'amuse donc à faire des trucs assez impressionnants puisque comme il a beaucoup de moyens, il met les watts et il veut fabriquer des avatars de réalité virtuelle qui sont photoréalistes, qui vous ressemblent comme deux gouttes d'eau, à tel point que tu vas aimer ton avatar et ta mère va aimer ton avatar. C'est le test ultime. C'est le test ultime. Et bon, apparemment, c'est déjà pas mal, ça marche déjà vraiment bien. Enfin, en tout cas, ça donne des résultats qui sont quand même très très nettement au-dessus de ce qui se fait. Bon, tu me diras, ce qui se fait, c'est plus proche du mi que de la photo, hein, quand même. Mais donc, il y a deux parties. D'une part, il y a la digitalisation en 3D de votre visage avec donc une photogrammétrie qui donc implique de passer quelques dizaines de minutes dans une espèce d'énorme boule qui est tapissée de gros appareils photo haute résolution. Donc tout ça, ça reconstruit une espèce de votre visage en 3D avec votre texture, etc. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi toutes vos expressions qui sont enregistrées. Et la manière dont vous vous comportez qui est apprise petit à petit et qui est, en fonction de ce que vous dites, replaqué sur l'avatar. Donc l'avatar, non seulement il doit vous ressembler énormément, mais il doit bouger comme vous et réagir comme vous au même moment. Et c'est uniquement de cette manière-là que vous vous sentirez à l'aise avec l'avatar de votre interlocuteur qui peut être bien entendu très très loin. Donc on est très très loin de quelque chose de fan d'un produit, hein, on est dans l'expérimentation la plus totale. Néanmoins, les résultats sont déjà assez impressionnants. Donc bon, voilà, c'est clairement, tu sais, la VR sociale, c'est le credo de Facebook. Donc, c'est des recherches qui vont largement dans ce sens. Bon, alors évidemment, la VR, c'est quelque chose qui a l'air d'être un petit peu, de s'essouffler un petit peu. Il y a Google qui a fermé un studio qui faisait des courts-métrages VR il y a pas longtemps. Pourtant, il y avait beaucoup de courts-métrages au South by Southwest. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que ben là, pour l'instant, c'est les pros, on a l'impression qu'ils utilisent plus la réalité virtuelle, à tel point que HP va sortir un nouveau casque qui s'appelle Reverb, et qui est assez impressionnant, puisqu'il a une résolution de 2160x2160 par œil, ce qui veut dire qu'il a 4 fois la résolution des PSVR, quand même, avec un tracking inside-out, donc pas de capteur externe, avec aussi des manettes, enfin voilà, tout ça pour le Windows Mixed Reality, et il a un champ de vision qui est à 114 degrés, donc très légèrement plus large, et il est quand même à $600, ce qui est à la fois cher et pas très cher, c'est-à-dire c'est un peu cher pour les consommateurs, clairement, et par contre c'est de toute façon une version qui est plus adaptée aux professionnels, quoi. C'est quand même un casque qui est plus pour les professionnels, et il y a une tendance comme ça, je pense que la VR pourrait devenir quelque chose dans le monde professionnel, pourrait trouver sa place peut-être avant encore ce qu'on imagine chez les particuliers, en attendant le PSVR VR2, bien entendu.
Ça nous manque quand même de démonstration des apports de la VR dans l'univers professionnel, quoi. On n'a pas, même sur le plan théorique, encore aujourd'hui, beaucoup listé d'usages, je trouve. Puis là aussi, soyez nombreux dans les commentaires pour me contredire parce que je dis des bêtises.
C'est la visualisation, hein. La visualisation. Il y a Ford, par exemple, qui a commencé à utiliser un logiciel de dessin VR. Le dessin VR, c'est pas foufou, hein, je veux dire, même sur PlayStation 4, vous en avez un, vous pouvez dessiner dans l'espace directement avec VMO, avec les moves. Bon, mais là, évidemment, c'est un petit peu plus sérieux, hein, puisque vous pouvez vous déplacer dans un espace complet et dessiner la voiture que vous voulez, comme vous le voulez, en taille réelle. Et alors, je me souviens plus, malheureusement, du nom du logiciel, mais Ford a adopté ce logiciel donc de dessin VR en trois dimensions pour le prototypage, par exemple.
Ouais, c'est sûr que ça, c'est des exemples hyper concrets, effectivement, mais on est tellement pas tous concernés en masse que ça a du mal à me parler. Mais je suis convaincu des bénéfices sur le plan professionnel, c'est clair. Du nouveau du côté de chez Apple, avec en marge de toute annonce sur scène, comme on peut en avoir l'habitude, des mises à jour sur le store avec des nouveaux iPads déjà, on va commencer par là, avec notamment des nouveaux iPad Air et iPad Mini. Il n'avait pas été mis à jour depuis un moment, donc c'est sympa de voir que l'iPad Mini est mis à jour. Et la particularité, c'est qu'ils sont tous les deux compatibles avec l'Apple Pencil. Mais là où il y aurait matière à détailler, c'est qu'ils sont compatibles avec l'Apple Pencil première version, qui n'est pas aimanté comme c'est le cas de l'Apple Pencil 2 avec les derniers iPad Pro. Et il y a un élément qui semblerait expliquer le fait qu'on reste sur cette vieille technologie. Moi, j'aurais pensé à chaud que c'était simplement pour continuer à maintenir de la prise Lightning, hein, puisqu'elle n'est pas remplacée par de l'USB-C sur ces iPads. Mais a priori, ce serait aussi les technologies qui sont utilisées pour aimanter et recharger l'Apple Pencil nouvelle version, qui serait assez chères pour ne pas être déployé dans toutes les gammes d'iPad, mais quelles qu'en soient les raisons, on se retrouve quand même avec une gamme d'iPad qui fait pas forcément consensus, qui est pas très claire. On est habitué à dire ça parfois avec les évolutions de gamme d'Apple, mais là on se retrouve vraiment avec une gamme qui est pas simple à comprendre, et notamment avec des iPads, alors oui, qui sont compatibles avec le Pencil, mais pas le même Pencil que d'autres, et avec des technologies qui ont été remplacées par d'autres sur les versions Pro. Est-ce que c'est pour donner du crédit aux Pro? Est-ce que c'est simplement des soucis d'économie absolue à tous les niveaux? Bon, c'est pas toutes les raisons, mais en tout cas, c'est pas très très clair du point de vue consommateur. Et puis, quand même, on va peut-être en toucher un petit mot pour dire que les AirPods, pour la première fois, évoluent. C'est un succès presque iconique, hein, les AirPods, peut-être bien au-delà de ce qu'imaginait Apple initialement. Donc, qu'est-ce qui change? Bah, vous avez des nouveaux AirPods plus chers, avec un boîtier de charge sans fil. Donc, si jamais vous voulez des AirPods comme avant, mais qui peuvent se recharger sans fil, ça vous coûtera 229€ au lieu de désormais donc les AirPods avec boîtier de charge 179€. Et puis, si vous faites partie des pauvres consommateurs qui aviez acheté les AirPods au début et qui voulaient tout prix bénéficier de la recharge sans fil, ben vous pouvez racheter un boîtier pour seulement 89 €, et vous gardez vos deux AirPods que vous remettez dans ce nouveau boîtier. Un petit mot qui me permet de t'interpeller, Guillaume, pour avoir ton ressenti de consommateur sur la charge sans fil. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant quelques temps avec des chargeurs Qi. Et j'avoue que je m'en suis très très vite lassé parce que c'est pas encore super rapide et finalement ça remplit pas beaucoup de besoins et d'usages. Quand Apple avait présenté ses iPhones compatibles recharge Qi, ils nous promettaient le fait que grâce à eux, il y allait y avoir des chargeurs Qi partout, dans les hôtels, dans les lieux publics, etc. Bon, j'en vois pas forcément fleurir, mais surtout, je sais pas si ça remporte un engouement particulier auprès du consommateur. Est-ce que ça, à titre tout à fait perso et consommateur, Guillaume, t'as un attrait particulier pour la recharge sans fil?
Alors moi, oui, en fait. C'est un principe que j'aime beaucoup. Moi, je serais très pour l'utiliser si, effectivement, il n'y avait pas des...
Tu vas me dire, je pense... pas me servir d'un fil.
Alors déjà, il n'y a pas de fil. Hein, c'est... Non, mais tu rigoles, mais il y a quand même un côté, tu veux, les fils...
Ah non, mais je suis un convaincu des AirPods, moi. Donc
c'est bien, ça, c'est avantage. Après, bon, c'est vrai que quand il y en a beaucoup, ça commence à devenir difficile. Non, le fait est qu'il n'y ait pas de fil, évidemment, c'est bien. Le fait est qu'il n'y ait pas de prise, c'est-à-dire que tu n'as pas à brancher, débrancher. Ce qui a deux vertus, pour moi, c'est d'une part, déjà, t'as pas débranché, branché, déjà, c'est très cool. Alors, je suis passé à l'USB-C, mais avant, déjà, c'était chiant, hein, ne serait-ce que parce qu'il y avait un sens. Mais en plus, ça évite l'usure du connecteur aussi.
Ah oui. Je dis ah oui parce que j'ai l'impression d'avoir une révélation, mais en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de cas où t'es obligé de changer, je sais pas, ton appareil parce que le connecteur marche plus?
Non, c'est très rare. Mais enfin, ça m'est arrivé une fois et bon, ah. Ouais, non, mais c'est, après, si tu veux, il y a peut-être aussi des problèmes d'histoire personnelle. Mais c'est vrai que le fait de poser directement sur un endroit et d'oublier le truc et tu reviens et il est chargé, je trouve ça très cool. Okay. Après, malheureusement, effectivement, la puissance qui est envoyée, elle est relativement faible par rapport à un chargeur puissant, quoi. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore génial, d'autant plus que tous les téléphones sont pas compatibles Qi. Enfin, voilà, et après, il risque d'y avoir plusieurs standards. Bon, c'est chiant. Mais dans l'idée, moi, j'aime bien l'idée de la charge sans fil, là, clairement.
Bon, tu m'as surpris, j'aurais pas pensé. Comme quoi, j'aime bien continuer à converser avec toi, puisque j'arrive à de mieux en mieux cerner tes préférences. Allez, trois mots-clés que je te laisse détailler pour terminer cette rubrique en bref. Trois marques même. Dropbox, Tinder et Tesla.
Ouais, très rapidement, hein, Dropbox limite désormais son forfait gratuit. Enfin, si on peut le passer un forfait vu que c'est gratuit. Bon, enfin, je sais pas. Ouais. Toujours est-il que son offre gratuite est désormais limitée à trois appareils.
À la Evernote, quoi. Il limite le nombre d'appareils que tu peux synchroniser.
C'est exactement ça. Donc voilà, c'est une limitation que vous verrez peut-être pas passer, mais en tous les cas, voilà, si vous utilisez sur plus de trois trucs, il va falloir faire des choix. Tinder, je reviens dessus parce que.
C'était passionnant.
Mais oui, on avait parlé de l'algorithme de Tinder, et c'est justement un mois plus tard que ces enfoirés décident de changer, enfin, en tout cas, de dire que ce que j'ai raconté, c'était n'importe quoi.
Les salauds.
Mais c'est exactement ça, puisque là, ils ont publié un post où ils disent que le Scorello ne fait plus partie de leur algorithme. Donc, oubliez tout ce que je vous ai dit la dernière Saint-Valentin. Le Scorello, donc, il est censé rentrer dans l'algorithme de sélection, n'est plus d'actualité, ils n'utilisent plus ça, donc en fait ils n'utilisent pas énormément de choses puisqu'ils utilisent donc l'activité, c'est-à-dire combien de fois vous vous connectez et combien de temps vous utilisez l'appli.
La géolocalisation.
Et après finalement, la géolocalisation comme avant et l'ordre des matchs potentiels, voilà, qui s'est présent, qui a été effectué dans les 24 heures. Enfin, il y a pas grand-chose en fait, il y a encore moins de trucs, j'ai l'impression. En tout cas, ce fameux Scorello n'est plus là, donc je me devais de me corriger moi-même, bien que à l'époque je n'avais pas connaissance du fait qu'ils avaient déjà abandonné le truc. Enfin, je sais pas, mais ils avaient peut-être déjà abandonné le truc au moment où j'en ai parlé.
On pouvait pas le savoir, effectivement. On partait d'articles aussi, encore une fois, qui parlent
de ces sujets. Absolument, bien sûr. De toute façon, vous avez les liens dans les notes de l'émission. Comme toujours, Tesla, tout à fait, puisque Tesla, en 2020, va sortir son modèle Y, qui est un SUV. Donc, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas ce que t'en penses, d'ailleurs, de ce SUV.
J'ai pas forcément d'avis. En fait, moi, le seul truc qui me marque à chaque fois qu'on me parle de Tesla en ce moment, c'est quand j'ai réalisé l'autre jour,
sais, c'est mon ami Matt là qui avait tweeté ça. Et bon, c'est pas le premier à l'avoir tweeté, mais c'est lui qui l'a diffusé, donc ça m'avait marqué. J'ai réalisé qu'effectivement, tous les modèles de Tesla, ça faisait sexy. La S, la 3, la X et la Y, et que le 3, a priori, il y a eu des soucis avec Ford qui a pas autorisé Elon Musk à utiliser la marque E pour un modèle de voiture, et donc il a remplacé le E par un 3, et donc il veut que ça fasse sexy. Moi, c'est le seul truc que m'évoque en ce moment Tesla, mais j'ai pas suivi tout à fait le
modèle. Mais c'est génial ça, c'est fort, génial ça. Ah, c'est fort, effectivement. Bon, le modèle Y, écoute, c'est un SUV qui aura dans les 500 km d'autonomie. Il fait le 0-100 km/h en 3,5 secondes. Donc, en gros, c'est un SUV qui se conduit comme une voiture de sport. De toute façon, c'est un SUV, puisque j'ai appris que c'était Sport Utility Vehicle.
Ah, d'accord, je pensais pas. Je pensais que c'était un 4x4 compact, moi.
Ben, c'est Sport Utility. Donc, en gros, c'est Utility. Donc comme un pick-up, mais sport, donc en gros c'est assez puissant quoi.
On nous prend vraiment pour des cons quand même.
Bah, écoute, je sais pas, tous les cas, c'est une machine qui est une machine qui est donc plus grosse que la Model 3, mais qui est pas aussi grosse que la Model X, et qui coûtera donc au lancement 47 000 $. Une misère, ma pauvre dame. Ouais. En tous les cas, ça va être globalement le gros coup de Tesla, parce que ils ont besoin de vendre énormément de voitures. Ils veulent arriver à 1 million de voitures en 2020 vendues. Et la plupart des voitures vendues aux États-Unis, enfin le SUV a énormément de succès aux États-Unis, quoi. Globalement, la moitié des voitures vendues dans cette gamme de prix étaient des SUV il y a l'an dernier, quoi. Et du coup, ben apparemment. Les modèles 3, enfin oui, le dernier, le modèle 3, là, il s'est bien vendu, mais il est le marché est saturé aux États-Unis, c'est-à-dire que tous ceux qui en voulaient une en ont une globalement, et donc ils s'intéressent aux marchés plus globaux. Et pour continuer à vendre, ben ils comptent sur ce SUV compact, on va dire. Alors ça va être compliqué parce que il est pas seul sur le coup, hein, évidemment, il y a d'autres constructeurs qui proposent des SUV qui soient qui soient à essence ou électriques. Et d'ailleurs il y a Fisker, qui est donc un constructeur assez récent, que d'ailleurs je ne connaissais pas, c'est un Américain, qui vient d'annoncer qu'ils allaient fabriquer un SUV aussi, qui lui était pour 2021 et qui normalement devrait avoir à peu près les mêmes caractéristiques, mais coûter 40 000 $, donc moins cher que le Tesla. Donc écoute, à voir, on a des nouvelles marques et des nouveaux combats encore.
Quelle belle machine quand même, hein, ces Tesla, franchement, à chaque fois qu'on voit les vidéos et les photos, quelle icône aussi de développement industriel ça peut être. Je sais pas quel sera l'avenir de ces véhicules, mais quelle icône et quelle gueule, quoi. On a fait le tour, Guillaume ?
Je crois.
Allô ?
Voilà, oui, je crois.
Coupure. Oui, tu crois. Super. Merci beaucoup, Guillaume. On a fait le tour donc de cette rubrique en bref. On enchaîne tout de suite avec les bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour ce 122e épisode de Tech Café?
Alors c'est très simple, c'est un petit site, c'est un site web ou une application sur Android en tout cas qui donc c'est une application de traduction qui est qui fait référence au site web. En fait, tout se passe sur le site web. Et c'est une appli de traduction qui est comme Google Translate. Donc vous allez me demander, mais pourquoi j'utiliserais DeepL à la place de Google Translate? Parce que je trouve que les résultats qu'il donne sont très bons, en fait.
Mais
j'ai essayé sur plusieurs articles.
C'est testé il y a de ça quelques temps.
DeepL?
Ouais. Un truc que les gens disaient que c'était
possible,
mieux
oui.
Que Google Traduction. Bon, il n'empêche.
Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. En tout cas, là, je l'ai testé dernièrement avec un certain nombre d'articles en anglais que j'ai traduit en français. Ouais. Et je trouve que la traduction est très bonne, en fait. C'est vraiment un truc... ça pourrait passer pour un article qui a été écrit directement dans la langue, quoi. Et plus, il n'y a pas que l'anglais. Il y a aussi le russe, il y a aussi le polonais, il y a aussi l'espagnol. Il y a quand même plein de langues. Donc c'est assez agréable à lire, voilà, la version traduite est assez agréable à lire. Alors je sais que Google Translate a fait des gros progrès quand même dernièrement, mais je trouve que DeepL est un petit peu au-dessus, donc à vous de me dire si vous trouvez que c'est mieux ou pas. En tous les cas, si vous avez des articles dans une langue que vous comprenez pas ou mal, bah DeepL peut vraiment vous aider, je pense.
Ouais, c'est intéressant. Je trouve Google Traduction fait peut-être des efforts, mais toujours aussi mauvais. Moi, je le teste assez régulièrement et je le trouve assez pitoyable. Du coup, c'est peut-être à tester, effectivement, DeepL pour vos traductions. Moi, mon bonus, ce sera une forme de critique.
Pour deux types de recherches sur lesquelles aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a absolument pas avancé et que l'industrie n'a absolument pas avancé, mais quand vous vous retrouvez à chercher quelque chose dans l'univers de l'immobilier, donc de la location, de l'achat immobilier, etc., ou des voitures, donc des trucs à fort fort budget, on va dire, fort poids dans le budget d'un ménage classique. J'ai l'impression vraiment que tout est fait pour compliquer les choses, mais dans l'immobilier au sens large, je trouve que les choses sont extrêmement mal faites et ça montre à quel point c'est un secteur bien particulier où les comparaisons et les recherches sont vraiment archaïques. C'est tout con, hein, et c'est peut-être seulement moi qui suis dans ce cas-là, mais si tu cherches demain un logement, Guillaume, qui forcément accepte la fibre et que tu sais que c'est presque une condition sine qua non pour toi pour choisir un logement, après tout, elle n'est pas plus débile qu'une autre de nos jours quand tu passes beaucoup de temps sur Internet et que tu as ton activité dessus, ben tu n'as pas de moyen de cocher des cases pour demander à ne te filtrer que les contenus de logements qui n'ont qu'un accès Internet de type fibre. Alors, si tu veux tester Google Stadia demain dans ton nouveau logement à tout prix, ben non, tu es obligé de d'abord chercher par logement et ensuite de vérifier lorsque le logement répond aux autres critères, voir s'il vérifie ses autres critères.
Il y a plein d'applications disparates aussi, non, surtout. C'est-à-dire, tu dois chercher sur quoi le particulier,
oui,
sur
c'est ça. C'est-à-dire
d'autres trucs, se loger, je sais pas quoi.
L'éventail des sites qui agrègent des offres sont très très larges. Effectivement, il y a plein d'acteurs, mais par exemple, ces acteurs, ils sont tous mis d'accord de par les usages et le fonctionnement. C'est pas qu'ils se sont mis d'accord dans une salle secrète, mais la manière dont on consomme les choses font qu'ils se sont tous mis d'accord pour au moins mettre le nombre de pièces, la surface, le prix, et c'est des trucs de base, et quand tu creuses les détails avancés, tu retrouves peu ou prou les mêmes détails, mais tu n'as pas des éléments autres que ceux qui sont décidés et qui sont complètement immuables depuis pas mal de temps. Par exemple, pareil, la consommation énergétique, tu n'as pas la possibilité de filtrer un logement par rapport à sa consommation énergétique d'entrée de jeu. Tu n'as pas la possibilité de faire une recherche sur cette base-là. Donc c'est complètement, pour moi, archaïque. Et pareil pour les véhicules. C'est-à-dire que demain, si tu veux acheter un nouveau véhicule, neuf ou d'occasion d'ailleurs, mais trouver un modèle de véhicule, et je fais le lien maladroitement avec les Tesla évidemment, mais si tu cherches un type de véhicule qui répond précisément à telle liste de critères, j'ai pas trouvé d'acteur qui le fasse bien. Il y a des sites qui sont très reconnus. On parle évidemment de l'Argus pour un certain nombre de choses autour de l'économie du véhicule, mais de manière générale, la recherche de véhicules est complètement à chier. Et je comprends pas pourquoi les acteurs ne sont pas en train de repenser cet aspect-là des choses. Tu vas même sur le site de constructeurs automobiles. Je mets au défi. Déjà, si tu le fais sur mobile, tu as 3 chances sur 4 de te retrouver avec 0 possibilité de chercher de l'info et de configurer un véhicule, et même sur les parties desktop, tu te retrouves avec des sites qui te font une espèce de catalogue vraiment dégueulasse de leur gamme de produits qui n'est pas claire. Et je ne comprends pas pourquoi ces environnements, où il y a pourtant d'énormes sommes d'argent qui sont en jeu, ne se sont pas inspirés de l'industrie de la tech telle qu'on l'a aujourd'hui dans la consommation grand public pour faire avancer les choses sur les parcours web et notamment sur la recherche et la comparaison des offres.
Tu as raison, effectivement, c'est étrange, oui.
On a fait le tour sur cet épisode de Tech Café. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Merci de vos soutiens, de vos partages, de vos évaluations sur iTunes, de vos commentaires sur techcafé.fr, de nous rejoindre sur le groupe Telegram et de soutenir l'émission sur Patreon à l'adresse patreon.com/techcafé. Merci beaucoup à toi, Guillaume, pour tout le travail de condensation éditoriale fait pour cet épisode. Merci aussi de ta présence régulière semaine après semaine. Et moi, je pense que je vais vous laisser, une fois de plus, ne m'en voulez pas trop, mais pour les 2 prochaines semaines, dans les mains expertes de Guillaume Pejaspala pour cause d'indisponibilité de ma part. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao à tous.